Quoique je vous ai installé loin d'Olivier, de manière à ce que vous soyez protégé, monsieur de...
Oui, c'est vrai.
Monsieur de Beaugrand.
Là, il
va falloir qu'il se lève pour me taper, donc ça va.
Il t'a déjà tapé?
Oui, oui, il m'a déjà tapé.
Quelle chance,
une fois, il m'a arraché ma chemise.
Il y a 50 ans de ça, je t'ai pas arraché ta chemise, je t'ai bousculé la layette.
Il n'y a pas qu'au Vatican. Qu'est-ce que ça mène chez nous?
Ben, Chantal, là-dessus, vous aimeriez que monsieur de Kersauzon déchire votre chemise?
Ah oui, 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 j'aimerais bien, oui. Ta femme doit être très très belle, non? Parce qu'en général, les femmes belles aiment les moches.
Ouais.
Mais pourtant, ton mari est pas si beau, toi.
Toi, ton mari doit être intelligent, parce que les mecs intelligents, ils adorent les connes.
Écoutez, moi qui connais les deux, non.
Tu peux la redire.
Vous allez bien, monsieur Gisbert, il y a longtemps qu'on vous avait pas vu au Grosse Tête.
Ah ouais, bah j'écrivais un gros roman.
Ah, c'est voilà. Vrai encore. Ouais,
ouais, oh merde,
encore.
Un truc illisible encore. Hein.
Oh non.
Ça parle
non,
de quoi, ça parle de quoi?
Ça se passe au temps du nazisme.
Pourquoi tu intéressant le nazisme? C'est un phénomène de toujours, quoi, le nazisme. C'est normal.
On comprend pas ce que vous dites, Pierre. Pierre, faut prononcer. Faut faire un petit effort pour articuler, là, parce que on n'a pas compris un mot de ce que vous venez de dire.
Ouais, fais un effort pour articuler.
Moi, je disais que tu étais en train de parler du nazisme.
Non, je disais
que... les bouchers de Düsseldorf. Je t'écoute, monsieur Pénichou.
Je disais que j'étais contre le nazisme.
Ah.
Ah, le nazisme.
Ah, t'es contre le nazisme.
J'avais compris le nanisme, moi.
Ouais, non.
Ah, ouais.
Vous avez toujours vos provisoires, Pierre, rassurez-moi.
Oui,
mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Le provisoire, c'est quoi? Ouais.
C'est quoi?
Pierre a des dents provisoires. Voilà pourquoi.
Ah, d'accord.
On le comprend un peu moins bien que d'habitude.
Ah, bah, mais ça fait longtemps, non?
Elles sont devant des dents provisoires ou derrière?
Toi, ta gueule.
Ça, on a bien compris, c'est bien clair.
Les dernières, elles sont restées dans ma nuque. Hein.
Je peux peut-être commencer
vous
par...
Vous pouvez les voir si vous voulez.
Une
là.
Première citation, si vous le voulez bien, ce sera pour Marie-France.
Posez vos questions provisoires.
Marie-France Boucher, qui habite chez Six et dans le Loiret, qui a dit « Docteur, ma femme est clouée au lit, j'aimerais que vous la vissiez. »
Francis Blanche,
oui.
Francis Blanche, non.
Pierre Dac.
Pierre Dac. Pierre Dac,
non. Il est mort. Il est mort.
C'est de cette famille?
C'est de cette famille, oui.
Coluche.
Coluche, non.
Pierre Doris.
Pierre Doris, bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Plus compliqué, la citation suivante, mais je compte sur messieurs Gisbert, Kersauzon et peut-être même Bénichou pour retrouver le nom de celui qui a dit...
Les jeunes de l'équipe.
Tu vois? Ah, c'est gentil, ça.
Chantal, Élie et moi, non.
Oui, non, non.
Voilà, il faut vraiment être cultivé pour connaître...
Ah bah, c'est agréable.
Pour connaître l'auteur de cette
moi
phrase.
Moi qui peux vous chanter tout Dorothée, vous ne devriez pas dire que je ne suis pas cultivé.
Ah non mais là franchement, je vous paye des cerises si vous êtes capable.
Oh, bah si c'est que des cerises. Alors,
de retrouver le nom de l'auteur de cette phrase très courte. Écoutez bien, être méchant, c'est se venger d'avance.
Ah,
ah bah alors c'est joli.
Ça c'est assez ancien, non?
Avouez que c'est joli quand même.
Ça ressemble à du Voltaire.
Ce n'est pas du Voltaire, non.
Mais c'est l'époque?
Ah non, ça vient quand même entre, on va dire à cheval entre le 19 et le 20e siècle.
Victor Hugo?
Victor Hugo, non.
Flaubert?
Être méchant, c'est se venger d'avance.
C'est un écrivain, c'est un... romancier.
Alors c'est un poète.
Et... Mort, il est mort.
Et un écrivain, oui, mort.
Français. Oui, oui. Quand t'es à cheval sur le 19e, généralement t'es, ouais, pas, t'es pas super vivant, ouais, au 21e.
Généralement quand t'es à cheval sur le 19e, tu cours, voilà, pas dans la prochaine.
Voilà, c'est ça. Nerval.
Pardon.
Nerval.
Gérard de Nerval, non.
Apollinaire.
Alors, attendez, vous avez dit qu'il était poète et romancier?
Poète et écrivain, c'est vrai.
Il est
plus connu pour ses poèmes que pour ses...
Il est un peu plus connu pour ses poèmes que pour ses écrits.
On l'apprend à l'école?
Alors, moi, je l'avais jamais appris à l'école. Mais j'ai appris...
Il est mort quand?
J'ai appris son existence grâce à Jean d'Ormesson, je dois dire.
Ah. Émile Verhaeren?
Non.
Jean d'Ormesson.
Il était français?
Oui.
Paul-Louis Toulet.
Comment vous dites?
Paul-Louis Toulet.
Paul Jean, c'est Paul Jean Toulet.
Paul Jean Toulet, bonne, oh là là, réponse de François-Olivier Gisbert.
Ben oui.
Oh,
il s'est trompé de prénom, tu t'es trompé de prénom, Pierrot.
Oui, mais moi, au Vatican, mon cul est propre.
Non mais c'est vrai que c'était bien, monsieur Bénichou, de votre part, mais monsieur Gisbert quand même a conclu, vous voyez.
Oui, j'ai la bonne réponse.
C'est comme un mec
complète
qui draguerait, que ce serait l'autre qui partirait avec la fille à la fin.
Bah, tu te rappelles, oui, ça nous arrivait tout le temps, autrefois. Ah, c'est toi qui draguais, c'est moi qui ramassais.
Voilà. Tu ramassais des tartes, oui. Tu ramassais des tartes dans la figure.
C'est vrai, vous avez dragué ensemble?
Moi, jamais. Tu penses, il avait un cartable. Il avait un cartable et un parapluie. Je m'en souviendrai toujours.
En tout cas, c'est bien Paul Jean Toulet.
Paul Jean Toulet, auteur de... dans Arles, truc, bon, où sont les aliscans.
Bah oui.
Quand l'herbe est rouge, sous la lune, et claire le temps, prends garde à la douceur des choses, lorsque tu sens battre sans cause.
C'est encore mieux avec des provisoires.
La question concerne cette fois la FUB. Je ne sais pas si vous connaissez la FUB, si ça vous non. dit...
C'est les usagers des banques, l'association française des usagers des banques.
Ah non, ce n'est pas les usagers des banques. Ah
bon la FUB, c'est A-F-U-B ou c'est A-P-H-U-B ?
C'est là et plus loin, F-U-B.
Ah, pardon, la FUB. A-L'APUB.
L'association des usagers.
La fédération.
La fédération des usagers, ça c'est vrai.
De Bordeaux.
Non, et c'est vrai que la FUB est un peu inquiète et concernée par une campagne qui démarre aujourd'hui.
La fédération des usagers de la branlette.
Non.
Est-ce que c'est un objet, le
B? On s'en a mal, là.
On s'inscrit où?
Moi, je suis membre d'honneur.
Moi, je suis trésorier.
La fédération des utilisateurs de balais.
Non, écoutez, c'est tout simple. Aujourd'hui, il y a toute une campagne qui démarre ce vendredi. C'est dans tous les journaux.
À Marseille?
Parce que dans toute la France.
Les usagers du bus, c'est les usagers.
Et tout simplement parce qu'il y a une vraie tendance à la mortalité parmi...
Bicyclette.
Évidemment, ceux qui font de la bicyclette. Bonne réponse collective, on va dire.
Oui, c'est vrai.
Quand vous frôlez un cycliste, lui, frôle la mort.
Oui. Oh. Ah oui, mais lui, il frôle les piétons, moi, hier. Ouais.
Elle a raison.
Moi, je me fais presque tuer tous les jours.
Par les bicyclettes. Alors, pourquoi ça se fait? Comment ça se fait que t'es encore là?
Il te rate.
Non, mais c'est pourquoi? Parce que j'ai une sorte d'instinct de survie incroyable.
Elle est obligée de s'habiller en plots.
Mais oui.
Pour la faire.
Ah, ça, c'est vrai. Elle est toute en orange.
C'est un plot de chantier, t'as raison.
Non, mais la réalité, c'est vrai qu'ils considèrent qu'ils ne polluent pas l'atmosphère. Ils peuvent te casser la gueule pendant que tu es dans la rue.
Mais rejoins, Marchais, là, c'est vrai. Et ça devient un vrai combat. Ils sont tout permis, les vélos. Je veux bien croire
Et les poussettes, c'est pire. Les poussettes,
les trottinettes.
Non, les poussettes, c'est pire.
Bon, les poussettes, ça va moins vite. Hein.
En arrivant à Paris, j'ai pris une carte Vélib. Je ne vais pas l'utiliser. Hein, parce que quand je les vois comment ils conduisent, je me suis dit, je vais mourir, je vais me faire tuer.
Ah oui, c'est
alors, j'ai arrêté.
Ah ben voilà,
d'ailleurs, si Vélib pouvait me rembourser.
Et vous, monsieur Janssen, alors?
Ah ben moi, j'ai plus peur des vélos quand je sors de chez moi que des voitures.
Ah mais évidemment.
Parce que les voitures, elles s'arrêtent et les vélos continuent la route. Ils respectent pas le code de la route. C'est quand ça les arrange. Alors du coup, ça crée des situations très, très anxiogènes quand je traverse. Voyez-vous, je suis pas bien.
Ah bah, je comprends, mais vous avez l'air très inquiet.
Et puis les trottinettes, tout ça. Ah oui, non, puis des fois ils m'énervent toujours. En ce moment, les vélos, j'ai envie de les pousser.
Non, mais attends, que quand tu prends les cons à bicyclette, les cons à trottinette, les cons à skateboard et les cons à la roue, là. La roue qui est toute seule.
Oh, ça fait peur, ça.
La roue qui est toute seule.
Oui, tu sais, là, les mecs.
Le monopode, là.
Genre, j'ai de l'équilibre.
Plus tous ceux qui font du trapèze. La rue est un cirque, vous savez. Hein.
Ceux qui font du trapèze.
Non, ça fait. Pardon, mais vous habitez où?
Au Cirque du Soleil.
Au plein centre de Paris. C'est les trottinettes à deux roues comme ça, qui s'appellent comme un trapèze. Ils font vous.
Les calèches.
Ils font des figures.
Les calèches, il y en a plus beaucoup, des calèches. Non, mais moi, j'ai pris un vélo il y a pas longtemps et c'est terrible parce que tu te fais insulter par les autres vélos quand tu t'arrêtes au feu rouge.
Oui.
Il t'engueule, il dit hey, connard.
Je m'arrête. Non, mais ça, c'est peut-être parce qu'ils t'ont reconnu.
C'est fou, hein, quand même. Toutes ces années. Toutes ces anecdotes de pédale, c'est surprenant.
Non, moi je circule en vélo et c'est franchement ça change tout.
Ah c'est vrai, à vélo, à vélo, on dit à vélo.
Hein. Ouais, à Marseille on dit comme on veut.
On dit pas en vélo, vous voyez, à vélo.
Je me balade à bicyclette. Et franchement ça change tout.
À Paris, tu te circules en bicyclette.
Bien à Paris et à Marseille.
Non, mais t'as pas le choix à Paris. Si jamais tu vas en voiture, tu mets 48 minutes. En vélo, tu mets
24. Moi j'ai trop peur à vélo.
Mais non, il faut marcher. C'est tout petit, Paris. Il faut marcher ou se balader à bicyclette.
Attendez, racontez, monsieur Janssen.
Ah, moi, j'ai peur en vélo. J'ai peur de monter.
À vélo!
Ah non, ça dépend s'il y a une selle ou pas.
Oh, quelle horreur!
Dans le vélo.
J'ai peur d'enlever
le vélo est à moi.
Mais je suis pas bien parce que même si moi je prends, ah, si je suis à vélo, oui. Ben j'ai peur des autres parce que ça débouche de partout et ça ne respecte pas le code de la route.
Non,
et quand toi tu le respectes, tu te fais désinguer la gueule, c'est vrai. Hein,
c'est ce que vient de dire Beaugrand, je vous signale.
Oui, mais quand je suis pas à vélo et que justement je suis à piéton, on me dit à piéton.
Non. À pied.
Quand je suis à pied.
En pied.
Et ben quand je suis en pied, je vois des... c'est surtout les trottinettes. Hein. Ça, c'est un fléau, les trottinettes.
Ah
hein.
Oui, ah oui.
Ah, vous verrez, un jour, on va arrêter ça d'un
non,
coup.
Non, c'est un truc de feignasse, c'est électrique, donc ils font.
Et
rien,
ils montent à deux dessus, et plus qu'ils sont gros, plus qu'ils prennent des trottinettes, mais marche un peu.
Bref, vous voyez, on a fait un.
Enfin, c'est un vrai débat de société, oui. Et il faudrait en discuter beaucoup plus sérieusement. Hein. C'est vrai, on va pas vers du mieux, vous savez.
Moi qui cherchais mon débat pour demain soir.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit sur. Tu vois que ça montre l'esprit de notre civilisation. C'est que, tu vois qu'elle dit, un vélo, tu fais des efforts, alors c'est bien. On est contre le bonheur de rien faire. Enfin.
Parce que pédaler, pour toi, c'est le bonheur.
Non, justement.
Justement.
Ah oui.
Mais ça peut être un bonheur également de travailler son corps.
Ça, c'est les pédales comme toi qui disent ça.
Neymar sort de ce corps.
J'ai pas me laissé emmerder par un cône de chantier quand même.
Ce qui est bien aux grosses têtes, c'est qu'il n'y a pas besoin de traduction labiale pour comprendre les injures. La question concerne le docteur Fessmeyer, Francis Fessmeyer, un Américain du Tennessee, très précisément.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee.
Il pouvait pas être du Kentucky.
Quelqu'un peut débrancher la fiotte.
Oh non.
Devine où elle a prise. Hein.
Pas d'homophobie dans cette émission.
D'autant plus que vous avez fait mon outing.
Votre femme vous écoute, Laurent.
Mon ex-femme, après vos conneries.
Alors, le docteur Fessmeyer,
du Tennessee,
en 2006, a déposé une méthode très efficace pour faire passer le hockey. Laquelle ?
Ah oui, c'est lié au fait de faire peur à quelqu'un ?
Pas tout à fait.
Est-ce qu'il faut faire quelque chose à quelqu'un ?
Ça peut faire peur, mais ça dépend des goûts.
Est-ce que c'est un rapport avec l'apnée ?
Non.
Est-ce qu'il faut manger quelque chose ?
Non.
Il faut regarder quelque chose ?
Non.
Non, il faut toucher un endroit précis, c'est-à-dire dans le dos, non ? C'est pas ça, non ? C'est
son nombril.
Le cou.
Le nombril. Les parties génitales.
Le nombril.
Pas tout à fait.
Se mettre un doigt dans le corps. Un doigt dans le cul.
Le toucher rectal pour faire passer le hockey.
Non, c'est pas vrai.
Bonne réponse.
Bah évidemment, c'est toi qui
pour toi, c'est moi qui
trouve. Bah c'est toi,
je tends le bâton.
C'est pas très fiable comme système, parce que moi, quand on me le fait, je fais « OK !»
Mais est-ce que mettre le doigt dans la bouche, ça fait passer l'aérophagie ?
C'est dans le magazine Néon, je n'invente rien. Hein. J'ai vérifié, parce que...
Ah bon, vous avez essayé ?
Mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire.
Et alors, ça fait grandir.
Là, il y a juste trois phrases. Le toucher rectal est efficace pour faire passer le hockey. Il n'y a pas plus d'informations. Donc, évidemment, je suis allé voir sur Internet pour vérifier.
Oui,
et effectivement...
Oui. Pour aller en profondeur dans le dossier.
Le docteur Fessmeyer...
Ça tombe bien.
Il a même reçu le prix Ig Nobel. Ce sont des prix qui se moquent du Nobel de médecine, qui sont des prix parodiques, mais qui sont quand même décernés à des vraies recherches scientifiques qui paraissent insolites, mais qui, au fond, sont...
Attendez, il y a un monsieur qui a le hockey, là.
Vous saviez, Karine ?
Pas du tout.
Ah non.
Pourquoi t'as les ongles noirs ?
Non, moi je croyais qu'il fallait boire de l'eau la tête en bas. Ah.
Faire peur, c'est évidemment le coup classique, je suis pas sûr que ça marche.
Un doigt dans le cul, ça peut faire peur.
Oui.
Tandis que là, le docteur Fessmeyer, il dit que c'est très efficace.
Mais il fait comment exactement ?
Il faut mettre quel doigt ?
Alors est-ce qu'il faut mettre le sien ou le doigt de quelqu'un d'autre ?
Vous essaierez une fois que ça vous arrivera. Je suis
en train de le faire, Laurent.
Écoutez, moi je vous donne des petites informations.
Non, mais c'est
bien pratique,
c'est utile au quotidien.
Des informations scientifiques. Oui, c'est dans le magazine Néon. D'ailleurs, le slogan de Néon, c'est « Il faut tout essayer ».
C'est vraiment une revue scientifique, en plus, que vous avez choisie.
Ah, ça m'intéresse. Je vous jure que c'est vrai. Et on apprend des tas de trucs, par exemple. Bon, ils sont un peu portés sur la question, ce mois-ci, je trouve, dans le magazine Néon. Par exemple, ils nous disent aussi que le suppositoire a été constitué de beurre de cacao, au départ.
Oui, c'est vrai.
Vous saviez ça?
Pour que ça glisse mieux. On avait les lèvres un peu noires.
Voilà, on nous apprend aussi quand il a créé la marque Bic, Marcel Bic a enlevé le H de son nom. Mmh. Hein, pour faire Bic,
oui.
Parce qu'il avait peur de la prononciation en anglais.
Bah évidemment. Ah
oui, et c'est lui qui a créé la crotte.
Et on y revient.
La crotte de Bic.
Et on y revient. Bitch, parce que bitch, évidemment, ça veut dire
prostituée.
Prostituée en anglais.
B-I-C-H.
Baron putain en anglais.
Ouais, c'est pas terrible.
Voilà pourquoi il a enlevé le H.
Chienne plutôt d'ailleurs. Hein.
Pardon.
Bitch, ça veut plutôt dire une chienne qu'une.
Là, j'ai l'impression que c'est le rappeur qui s'exprime.
Ça veut dire qu'elle ne fait pas forcément payer ses talents.
Non, c'est une coquine.
Voilà.
Les bifs. Qui a eu le hoquet? Qui a eu le hoquet?
C'est moi, je m'en occupe tout de suite.
On va au XVIIe siècle, monsieur Stevie Boulet. Au XVIIe siècle, il y a un soulèvement contre les impôts trop lourds du roi Louis XIV. On est dans le nord de la France, de par chez vous, vous voyez.
Ah, de par chez nous.
Même là-dessous, dans le Boulonnais, vous voyez ce que c'est le.
Boulogne.
Ah, oui. Dans le Boulonnais. Et là, il y a une révolte soutenue en sous-main, d'ailleurs, par les agents du roi d'Espagne. Une révolte des bourgeois, des paysans.
Ah, c'est pas Calais ?
Contre le roi de France en raison de la pression fiscale. Et comment a-t-on appelé cette révolte de 1662 ? La révolte des...
Bourgeois de Calais ?
Ah non, aucun rapport.
Ce sont des paysans principalement qui se sont rebellés.
Non, il y a des bourgeois aussi.
Des bourgeois, des paysans.
Des bourgeois, des paysans, tout le monde.
Pour l'impôt. Mais c'était pour tous les impôts ou...
Ah oui, oui.
Ou pour un impôt spécial comme
c'était
la guerre
des réquisitions pour le financement des guerres qui étaient incessantes à cette époque. Ouais.
Et c'est un nom dont on emploie encore ?
Ah oui, ça vous arrive, vous, en allant faire vos courses, par exemple.
Ah bon, des chicons.
Des quoi ?
Des chicons.
Chicons, non.
Des sachets.
Des sachets quoi ?
Je sais pas quand on va faire des courses, on en des sachets.
La révolte des cabas.
Est-ce que c'est un nom commun, Laurent ?
Alors, c'est à la fois un nom commun et un nom propre.
Ah.
C'est un personnage de l'imagerie populaire que vous connaissez tous. Son nom est un nom propre, effectivement, et on a appelé ça la révolte des... D'ailleurs, chez les Wallons, ça veut dire aussi enfant remuant, tapageur. Ça veut dire aussi, dans le Nord, un peu niais, un peu imbécile, vous voyez.
Ah.
Des bolos.
La révolte des ch'ticons.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Des bolos.
La révolte des bolos. Mais enfin, écoutez.
Vous allez applaudir, c'est gentil, non. Mais
je suis à côté. Je suis rassuré, je croyais que c'était la bonne réponse.
Ah, parfois, c'est
je me suis
hein.
Dit. Je me suis
la
dit.
Révolte des bolos, juste après l'assassinat de Ravaillac. Hein.
Est-ce que ça pourrait être la révolte des Martins?
Des Martins, non. Non, c'est un nom propre que vous connaissez tous. C'est aussi une marque, d'ailleurs, aujourd'hui.
Est-ce que c'est une marque alimentaire, aujourd'hui?
Oui, une marque alimentaire, oui, alimentaire.
Des Knorr.
La révolte, pardon.
La révolte des Knorr.
La révolte des Knorr, non.
La révolte des...
Des Liebig.
Des Liebig.
Non, mais Barillard.
C'est connu, c'est historique, hein, ce soulèvement contre les impôts trop lourds au XVIIe siècle.
Oh, bah, je sais.
On a appelé voilà, ça la révolte des...
Ça vaut aussi
comment dîner chez toi?
Un babage?
Tu demandes souvent 200 grammes de babage?
La révolte des biques, la révolte...
Oui, mais maintenant que vous le dites, oui,
mais quand vous dites, on le demande quand on fait des courses.
Oui, parce que c'est une marque célèbre, vous voyez. On marque, il y a un doute, est-ce qu'elle existe encore, cette marque?
Ah, c'est ça.
Je crois.
Je sais pas, Gillette.
La révolte des Gillettes.
La révolte des Gillettes.
Je trouve ça sonne bien.
La révolte des cardigans?
Non.
La révolte des spéculoos? Non,
non, mais c'est un personnage... Un personnage qu'on connaît qui est dans une chanson populaire célèbre.
Des boudins.
Caca.
Pardon.
Des caquins.
Non, écoutez, voilà 300 euros qu'on va distribuer à monsieur.
Une chanson populaire célèbre.
Gianne Vitre de 7 dans l'Hérault.
Des Rogins.
La révolte des Lustucrues.
Oh. Ah, bon. Mais j'ai des pattes.
La révolte. Elle existe encore, cette marque.
Oui, ça existe. Ah,
oui, ça existe encore, les Lustucrues.
Bah, oui, évidemment.
Ah, bah, je sais pas, je prends que des barrières.
Si, des gnougnous, des kiki.
Moi aussi. Lustucrues.
Lustucrues, on trouve encore, vous êtes
oui.
Ah,
oui.
Les coquillettes Lustucrues.
Et Rivoire et Carré aussi.
Ça, non.
Non, si. Ça, non. Ça y est plus.
Rivoire et Carré aussi.
Ah, non, ouais.
Ils mettent plus d'œufs chez Rivoire et Carré.
Et donc, il y a eu un monsieur Lustucrues.
Oui. Bah, alors, la mère Michel qui a perdu son chat, c'est le père Lustucrues qui lui a répondu.
Non, non, la mère Michel ne m'attendait pas. Perdu.
Et donc c'est quoi un lustucru ?
Eh ben c'est un niais. Vous voyez, j'ai six lustucrues.
Moi je dis jamais c'est un lustucru, on parle d'un mec. Tu dis ça, toi ?
Bah, pour moi, l'Ustucru, c'est Germaine avec ses extraterrestres, là, dans la secoupe.
Oui, pour moi, c'est les gnognos, les kikis, oui. Les kikiyoki.
Elle est mignonne.
Vous me faites peur.
C'est marrant, je connais.
Alors, c'est, il m'a parlé, mais est-ce que je le crois, l'Ustucru ? Non, je... Non, mais c'est, dames et messieurs les jurés, l'Ustucru, non.
Monsieur ou madame Vitré, Jeanne, c'est son prénom qui habite 7, touche en tout cas 300 euros grâce au l'Ustucru. Qui a prononcé pour la première fois cette phrase célèbre « Venez, Watson, j'ai besoin de vous ».
Sherlock Holmes ?
Justement, non.
C'est une femme.
Est-ce que ce n'est pas une femme.
Est-ce que la personne qui a prononcé ça, c'est cette personne qui a inspiré Conan Doyle ?
Du tout. C'est une phrase restée célèbre, très célèbre.
De Napoléon.
C'est quelqu'un qui allait mourir.
Non, du tout. Venez, Watson, j'ai besoin de vous.
Ça n'a rien à voir avec Sherlock Holmes.
Rien à
ça
voir avec
Sherlock
Holmes.
Ça s'est passé dans la vraie vie ? Ou c'est un personnage de fiction ?
Ça s'est passé dans la vraie vie. Contrairement à l'histoire qu'on vient d'entendre.
Et Watson, et Watson est médecin ?
Watson n'est pas médecin.
Non, est-ce que c'est pas un général d'armée ou quelque chose comme ça ?
Du tout.
C'est Churchill. Est-ce que c'est aux États-Unis ?
Plutôt, je pense, en Angleterre.
Est-ce que c'est littéraire ?
Littéraire, non, c'est dans la vraie vie.
Est-ce que c'est pas Edison quand il a créé l'ampoule incandescente ?
Non, mais on se rapproche.
C'est un inventeur. Ah, c'est pour Graham Bell pour téléphoner.
Excellente réponse de Laurent Baffy. C'est la première conversation téléphonique de l'histoire. Et d'ailleurs, pardon, ça se passe aux États-Unis. Hein, ça se passe à Boston. Graham Bell.
C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Moi.
Graham Bell.
Moi, ça m'a fait buter.
Graham Bell était. Graham Bell était. Votre devoir de réserve. Graham Bell était certes britannique, mais quand il invente effectivement le téléphone, il est à ce moment-là à Boston. Ça se passe à Boston. Et effectivement, il appelle son ami, son serviteur, et l'inventeur qu'il est lui dit « Venez, Watson, j'ai besoin de vous ». C'est son assistant qui était dans une autre pièce, hein, il faut le dire. Un peu comme, au fond, il l'aurait appelé sans lui téléphoner, l'autre serait venu quand même.
Bien sûr.
Mais quand même, c'est la première conversation téléphonique. « Venez, Watson, j'ai besoin de vous ». Et c'est encore une excellente réponse de Laurent Baffy, il faut le dire quand même. Parfois, on téléphone pour rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les conversations téléphoniques, la plupart du temps, ne servent à rien.
Ah non, je ne suis pas d'accord.
Oh, franchement.
Oh, si. Ah non.
Oh, si.
Ah, ah, non.
Aujourd'hui, un petit texto et vous avez dit le nécessaire.
C'est plus...
Il n'y a plus besoin de parler au téléphone aujourd'hui.
Si, alors moi, je vais vous dire. Déjà, je ne veux pas finir avec une tendinite du pouce.
Voilà.
Donc, à force de faire des textos, là, je
préfère avoir un cancer de l'oreille.
En plus, j'ai mon...
Il a raison.
Ah ouais. Non, parce que je mets le casque. Et en plus, j'en ai marre de mon correcteur d'orthographe qui fait que j'écris des conneries et que c'est chiant de corriger. Non, c'est vachement plus rapide de dire, de laisser un petit message de 30 secondes.
Moi, ma mère, par exemple, a toujours pas compris que le portable, quand tu tombais sur la messagerie, que c'était la messagerie. Elle croit que t'es derrière en train de filtrer. Alors, à chaque fois qu'elle a le téléphone sur le portable, elle fait « C'est maman !» Et là, bah, décroche!
C'est vrai.
C'est vrai qu'avant, on entendait, effectivement.
Oui, et oui, vous avez raison. Les répondeurs.
Ah, mais c'était le plus grand kiff du monde. Quand les répondeurs sont arrivés, c'était de filtrer.
Mmh. Et de rentrer à la maison pour écouter son répondeur.
Il faut s'en souvenir, quand même, de cette phrase.
Oui, bah, on s'en souviendra.
La première phrase téléphonique, quoi. Venez, Watson, je veux vous voir.
Oh là là, bah, oui, c'est historique. Je suis d'accord.
Est-ce que vous vous souvenez de votre dernière conversation téléphonique, vous, par exemple?
Je peux pas, j'ai mes règles. Achète-moi des tampons.
Vous savez que les femmes servent à autre chose que d'avoir leurs règles. Ou... Vous savez, nous avons des cerveaux.
Vous, votre dernière conversation téléphonique, monsieur Perroni, c'est laquelle ?
Ah bah c'était, c'est dommage, on est fermé aujourd'hui.
Et vous, monsieur Rollin, votre dernière conversation téléphonique ?
Ah, les WhatsApp aussi, vraiment.
WhatsApp, ah, vous faites WhatsApp.
Ouais, je téléphone très peu.
Et voilà, c'est ça, on téléphone plus. On écrit maintenant, en fait. On écrit au téléphone. Et vous, alors, Karine
Marchand ? Moi, j'ai appelé ma mère.
Oh, c'est mignon.
Hier. Oui.
Elle va bien.
Pour lui annoncer que ma fille, parce qu'on avait eu les tests, elle a 141 de QI.
Ah, j'ai cru qu'elle n'était pas enceinte.
Oui. Non, bah non, elle a 14 ans. Et je ne savais pas si c'était si une bonne nouvelle.
Enfin,
si
comme quoi, ça peut sauter une génération.
Oui, c'est vrai.
Le Mont Saint-Michel se situe à l'embouchure du...
Quénon.
Du Quénon.
Quénon, oui. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Baptiste Le Caplin.
C'est le Quénon qui, dans sa folie, a mis le mot en Normandie.
Ah voilà. Voilà. Ah voilà. Ça, c'est les Bretons qui disent ça.
Ah bon, non, plutôt les Normands.
Ah bah non.
Bah non, c'est du côté normand, donc c'est les Bretons qui disent.
Ah ouais, si vous voulez.
Que la rivière est folle.
Moi je le disais.
D'avoir mis ce bel endroit chez les Normands.
C'est beau le Mont-Saint-Michel quand même.
Hein. Très beau.
Puis tu peux t'enliser si tu veux. Tu veux te débarrasser de ta famille, tu les emmènes sur les sables.
Ouais, par contre,
tu as la bonne heure au bon endroit, t'as la moitié qui disparaît, y a pas de trace. Hein.
C'est vrai, il a raison.
Couteau et rien, voilà. Tout ça, ils étouffent dans le sable.
Allez, venez les petits, on va pêcher la crevette. Hop là, tac. Pas de pension alimentaire, rien.
Très beau le Mont-Saint-Michel.
Oh, vous êtes allé, Isabelle, déjà au Mont-Saint-Michel ?
Je crois bien.
Comment ça, vous croyez bien ? On s'en souvient quand on va au Mont-Saint-Michel, quand même. Il y a une différence entre les Buttes-Chaumont et le Mont-Saint-Michel, voyez-vous ?
Ah oui, au Buttes-Chaumont, c'est souvent marée basse.
J'étais avec un amoureux.
Oh, oh.
Bah, je crois que j'ai plus vu la chambre de l'hôtel que le Mont-Saint-Michel. Et comme on partait que pour le week-end, je crois que je ne l'ai pas vu.
Ah bah non, le Mont-Saint-Michel.
Oui.
Mais le fiancé, vous en souvenez ?
Oh là.
Ah oui.
C'était mais quand même, pour monter dans la chambre, t'as quand même un peu vu.
Un peu vu, oui, vaguement. Voilà. Mais
C'était l'homme laid de la mère Poulard.
Ouais.
Ça doit être beau d'arriver en bateau là-bas. Hein.
Enfin, à mon avis, c'est assez incertain parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond autour.
Ah oui, mais.
Il n'y a pas de fond. Il y a très peu de fond.
Jusqu'à Saint-Malo, au moins, vous voyez, depuis Saint-Malo.
Mais Saint-Malo, c'est pas le Mont-Saint-Michel, mon petit gars, faut pas confondre.
Oui, mais c'est pas loin depuis Saint-Malo, on voit.
C'est entre pas loin et aller jusque, il y a souvent une différence. Par exemple, tu vois, Neuilly, c'est pas loin de Paris, mais quand il faut y aller, putain, c'est loin. Hein, c'est très relatif, tout ça, tu vois. Puis, allez, au bateau au Mont-Saint-Michel, tu vas faire quoi dans la vase pourrie et tout
ça. Justement, je vais vous demander le nom de l'auteur et ce sera la question suivante pour Quentin Cazobon qui habite Sestoc. J'ai entendu quelqu'un ronfler. Alors, je ne sais pas si c'est Pierre Bénichoux.
Non, pas du tout.
Il y en a un qui a ronflé par là.
Il a respiré fort, il n'a pas ronflé.
Ah. Non, pas du tout, je vous assure que non. Je me connais.
Nous aussi. Alors, qui est l'auteur des Merveilles du Mont-Saint-Michel ? C'est d'ailleurs son dernier livre. Je vous demande de retrouver le nom de l'auteur qui a publié en 1879. Oui, c'est un Français mort. Oui. Les Merveilles du Mont-Saint-Michel.
Hugo.
Si vous voulez, je vais même vous donner le premier et le dernier de ses livres. Le premier s'appelait Le Club des Phoques. Et le dernier, Les Merveilles du Mont-Saint-Michel. Et entre-temps, alors il en a écrit des livres. Le premier livre date de 1841, Le Club des Phoques, et le dernier, Les Merveilles du Mont-Saint-Michel.
Michel Zévaco.
Non, attention, c'est pas un auteur très très connu, mais vous connaissez son nom parce qu'il est surtout l'auteur d'un de ses romans les plus célèbres. Évidemment, ce n'est pas celui-là que je vous donne. J'ai choisi le dernier à cause de l'actualité, Les Merveilles du Mont-Saint-Michel.
Alors, est-ce que c'est un auteur de romans feuilletons ?
Oui, exactement, monsieur Perroni.
Ah. Alors, Eugène Sue ?
Eugène Sue, non.
Marcel transpire.
Non.
la version chic de Eugène Sue.
Les Errants de la Nuit, La Fabrique des Mariages, Le Chevalier Ténèbres, Capitaine Fantôme, Valentine de Rohan, Le Poisson d'Or, Les Habits Noirs.
Michel Zévaco.
Non.
Paul Féval,
l'auteur du Bossu. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh, une question animalière, comme ça tout le monde a une chance pour Stephen Guillaume qui habite Brest. Je vous demande quel animal glotteur.
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 Le dindon.
Le dindon ne glotteur pas.
Est-ce que c'est un animal de la basse-cour ?
De la basse-cour ? Non, on peut pas dire ça, non.
Donc, sauvage ?
Alors sauvage, oui, plutôt sauvage.
C'est un oiseau.
C'est un oiseau, mais c'est vrai que ça n'est pas un oiseau domestiqué.
Un rapace,
non.
Le flamant rose,
non.
Je trouve sous notre latitude.
Oui, on le trouve
sous. La caille glotteur ?
À Paris, il y en a peu, hein, mais.
Il écoute pas. Un canard, un col vert.
Mais on en trouve en France. Oui, Muriel.
Le héron. Il y a un petit délai pour moi quand même, hein. Il y a un petit temps. Moi, j'ai le réalisateur pour repasser ce que je dis.
Qu'est-ce que vous glotterez ?
La caille glotteur-t-elle ?
La caille ne glotteur pas.
Ça se chasse ?
Ça ne se chasse pas, ou alors c'est qu'on est un chasseur.
On le trouve dans les eaux, on les trouve ?
Non, il n'y en a pas dans les eaux.
La cigogne.
La cigogne glotteur. Bonne réponse de Sophie d'avant.
Moi, je croyais qu'elle volait.
Elle vole et elle glotteure aussi. Elle claque du bec, en fait.
Ah oui.
Elle cigogne.
C'est plaisant comme voisinage.
Non, mais c'est vrai, elle n'a pas vraiment.
C'est du bruxisme, ça s'appelle.
Oui, elle n'a pas de cri. Elle ne crie pas à la cigogne. Elle claque du bec.
Ne claquez pas du bec, ça n'éclaire personne.
En plus, il n'a pas de bec.
Claquer du bec, ça veut dire que ça pue.
Elle imite bien la cigogne.
Ça claque du bec, c'est que ça.
Vous claquez du baigneur, on dit.
Ça coince, ouais.
Ça klaxonne, on dit.
Alors, plus élégamment, vous direz désormais qu'elle glotteur la cigogne. Bravo Sophie. Une question historique maintenant. Vous connaissez sûrement Henri Dunant qui a créé la Croix-Rouge. Mais c'est sur un champ de bataille. Et ce sera une question pour Kamel Moilly qui habite Bouffemont dans le Val.
Kamel on Moilly, ne dit rien.
Kamel bon, Moilly, le chorégraphe.
On l'a pas, c'est un nom de village très joli. Voilà. Et on ne dit pas t'habites où, hein. C'est parce dans que le Val d'Oise. Beaucoup d'un coup, donc on dit rien. Allez.
C'est dans le Val d'Oise, bon. Bouffemont.
Voilà.
Et voilà. C'est pas Kamel Moilly, c'est Kamel Moilly.
Ah, pardon.
En plus.
Le Kamel Moilly qui jouait au Grosse Tête. Bon. Hein, bon.
Alors donc, je vous donnais le nom d'Henri Dunant, ça vous saviez qu'il a créé la Croix-Rouge. Oui. Et sur quel champ de bataille en a-t-il eu l'idée? Alors, une bataille napoléonienne, oui.
Austerlitz.
Mais attention, c'était Napoléon III.
Sedan.
Sedan, non. Puisqu'on est en 1859. Célèbre bataille de 1859. 330 000 soldats ont combattu dans cette bataille.
Sedan.
L'armée française était dirigée par Napoléon III. Enfin, pas par lui-même.
Hein, à Belfort.
L'armée de Napoléon III. Et face à lui, c'était l'armée autrichienne de l'empereur François-Joseph.
Vienne,
non.
Valmy.
Et croyez-moi, non. Tout le monde connaît le nom de cette bataille, sans parfois savoir peut-être.
Ah, c'est là.
Jena?
C'est là où il y a eu l'euro, là. Merde.
Baden-Baden?
Baden-Baden, non.
Maastricht,
non.
Trafalgar,
non.
C'est en Autriche?
Non, ce sont les Autrichiens qui affrontaient les Français.
En France?
Mais ça ne se passait pas en Autriche. Non, ça
en Belgique?
En Italie.
Ah.
En Lombardie, si vous voulez que je sois.
C'est-à-dire qu'on utilise ce nom comme dans les.
C'est un nom très connu chez nous en France.
Alba,
non.
La Bérézina.
Bérézina, non.
Spaghetti.
Même si aujourd'hui, la Bérézina collerait très bien à cet endroit.
Ah, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe.
Ça veut dire que c'est une catastrophe.
Le Paris Saint-Germain?
Non.
En ce moment, c'est une catastrophe.
Non, en fait, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que le nom de cette bataille a été donné chez nous en France à autre chose.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on connaît le nom de cette bataille.
La merda.
Peut-être que vous ne connaissez pas la bataille en elle-même.
Et ça a été donné à quoi? À une pizza? À quoi?
Parce
que si je vous le dis, je sais que Gazan va tout de suite répondre.
La Maesna?
La Remontada?
La Remontada, non.
C'est un nom italien?
Un nom italien de ville.
C'est qu'on utilise dans le sport?
Dans le sport, non.
Mais
la Polonia?
Cette guerre est finie.
Ah oui.
Bon, eh ben c'est Capri.
Bravo.
Non, c'est pas Capri. Non, c'est pas Capri.
C'est en cuisine?
Alors, ça aurait été Marengo, ça, évidemment.
Ouais, c'est ça.
Bravo, monsieur Junio. Mais non, ce n'est pas Marengo.
Donc, on l'utilise pas dans le sport?
Pas dans le sport.
Pas dans la cuisine?
Pas dans la cuisine.
Dans la politique?
Dans la politique, oui, pendant longtemps. Plus maintenant. Mais longtemps, on a entendu ce mot en politique.
Embargo?
Embargo, non.
Chianti?
C'est Samine Parot?
Oui, monsieur.
Le mari.
Salango.
Solferino.
Salango.
Solferino. Excellente réponse de Florian Gazan. Solferino.
On dit c'est Solferino.
Solferino, c'était là où le Parti Socialiste avait son siège pendant des années et des années. Ils ont revendu il n'y a pas longtemps le siège du PS.
Ah bon, pourquoi j'ai pas su?
Parce qu'ils sont pas assez nombreux pour l'habiter.
Solferino, c'était le Parti Socialiste chez nous en France, mais c'est avant tout une bataille. La bataille de Solferino. Et c'est là qu'Henri Dunant, effectivement, a permis à Florian Gazan de marquer un point supplémentaire.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you,
Francky. Happy birthday to you.
Ah, ils vous ont pas fait ça à Radio Classique, hein ?
On me l'avait jamais si bien chanté, je dois dire. Quel cœur !
Alors, en quelle année la date de naissance de Franck Ferrand ?
1997.
Ah, 1997, c'est possible ça ?
Mais non,
non, il serait plus
ma
jeune
fille
que moi.
Est née en 95, j'ai l'air d'être
67,
sa mère.
67. Enfin.
Vous êtes né, je crois, le même jour, pas la même année. Attention, que Brigitte Lahaie et Clémentine Sellary.
Ah, mais j'en suis très flatté, pour des raisons différentes.
Vous connaissiez Franck Ferrand, Ahmed Silla ?
Oui, on a bu un café ensemble.
Je sens que vous intéressez pas à notre histoire.
Non, j'ai pas eu le temps de réviser, Laurent.
Vous n'avez pas de bonnes notes en histoire.
J'étais pas ouf ouf en histoire.
Bon, alors... Ahmed, quand même, 1515.
1515, Marignane.
Ah,
l'aéroport. Voyez quand même, Ariel.
Mais je vois, vois qu'il y en a là-dedans. Et oui.
En revanche, vous êtes heureux d'être assis à côté d'Ariel Dombal.
Ouais, je suis très content d'être à côté d'Ariel Dombal. Vraiment, ça me fait quelque chose. Hein. C'est pas parce que souvent on dit, tu viens dans la télé, dans la radio, tu dois dire ouais, tout le monde est sympa, tout le monde est cool. Moi, Ariel, ça a été mon premier vol de cassette vidéo parce que j'ai regardé Un Indien dans la ville.
Ah oui.
Très très longtemps. Et avec ma mère, on avait décidé de pas rendre la cassette. Sinon, j'étais triste.
C'est mignon.
Ah mais j'étais en fait pour tout vous dire, Madame Lombal, j'étais amoureux de vous.
Oh.
J'aurais voulu être Mimi Sicu.
Oh ben ça me plaît.
Si jamais il y a un 2.
Voilà.
Indien vaut mieux que 2, tu l'auras dans la ville. Et Stevie Boulet évidemment, le vieux Stevie, le vieux Boulet.
Mais il vieillit pas, il vieillit pas.
Mais vous regardiez le Loft
Bah qui n'a pas regardé
Laurent quand même, j'avais la télé, je regardais. Moi je voulais faire partie du Loft. Après j'ai vu la piscine, j'ai dit non. J'ai dit non.
Quant à Monsieur Manœuvre, je suis pas sûr que vous le connaissiez non plus parce que...
Eh ben si, je le connais, tu vois.
Bravo, très honoré.
T'es la personne la plus facilement imitable, toi.
Non mais c'est ça quoi, j'ai regardé La Nouvelle Star.
mais c'est vrai que les jeunes vous connaissent grâce à La Nouvelle Star.
Et voilà, moi je suis transgénérationnel, voyez-vous. Non,
ah oui, les vieux vous connaissent grâce
aux enfants du rock.
J'allais dire aux compagnons de la chanson. Alors il y a des citations littéraires ici, humoristiques, qu'il faut resituer, en tout cas retrouver leurs auteurs. On commence toujours comme ça aux grosses têtes. Qui a dit, et ce sera une citation pour Alain Dassy, qui habite Villeneuve-d'Ornon, en Gironde. L'hypochondrie est la seule maladie que les hypochondriaques croient qu'ils n'ont pas.
C'est français ?
C'est français.
Et c'est quelqu'un qui est mort ?
Oui, qui est mort, oui.
Bah, c'était quelqu'un de sérieux ou un bouffon ?
Ah non,
pourquoi vous hésitez ? Enfin,
un bouffon, dites, c'est pas parce qu'on a Ahmed Silla qu'il faut parler le langage des banlieues. Wow, est-ce que c'est un bouffon qu'on dit ça ?
C'est vrai, qu'est-ce qui te prend tout à
l'heure ? Mais non, non, j'entendais, ça veut dire que j'entendais que c'était quelque chose de vieux et que c'était quelqu'un qui avait peut-être l'oreille du roi.
Oh là, l'oreille du roi.
Voilà.
Et les nichons de la reine.
Oh, très peu pour moi. Hein.
Non, non, c'est quelqu'un qui a fait partie des grosses têtes. C'est un de nos habitués, on
Pierre
va dire.
Bénichou.
Non.
Sim.
Non.
Jacques Martin.
Et il était hypochondriaque. Jacques Martin. Ah. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Et il va y avoir des citations que je connais ou pas ?
Ah ben oui.
D'accord. Oui, oui.
Ah ben oui. Ah ben par exemple, vous pouvez retrouver peut-être le nom de celui qui a dit « Toute ma vie, j'ai été payé pour ce dont la plupart des enfants sont punis. »
C'est joli.
Ça, c'est une femme qui a dit ça.
Non, un homme.
Un Français ?
Non.
Donc il a été payé pour faire des conneries.
Un Américain.
Exactement, un Américain.
Un Américain.
Jerry Lewis.
Pardon ?
Jerry Lewis.
Jerry Lewis, bonne réponse. C'est vrai. De Philippe Manœuvre. Pour Jocelyne Druyère, qui habite Livron, c'est un trou, c'est normal. Oh. Qui a dit « La pluie a été inventée pour que l'homme se sente heureux sous un toit. »
Ah.
Wow. Est-ce que c'est du XVIe siècle ?
Alors, pas du tout, c'est totalement contemporain, c'est même quelqu'un qui vit encore aujourd'hui.
Qui est français ?
Et qui est français, madame.
Et qui est un chanteur ?
Non, pas du tout, monsieur.
Un sportif?
C'est pas mal ça, parce que je vais vous dire, c'est pas un sportif, mais c'est quelqu'un qui quand même a une activité sportive assez intense.
Mais c'est pas ce qui lui fait gagner sa vie.
Il est avant tout écrivain.
Sylvain Tesson.
Sylvain Tesson, excellente réponse de Franck Ferrand.
C'est grave.
puisque vous savez qu'il grimpe exactement, Sylvain Tesson, il fait de l'escalade, il grimpe, il est un peu sportif quand même. Faut,
oui, oui. Ah, oui, vaut mieux.
Bon, il s'est cassé la gueule en même temps, hein, déjà. Hein.
Mais c'est pas celui qui est tombé dans une crevasse.
Ben oui, non, il est tombé d'une maison.
D'un chalet, il est tombé d'un chalet, c'est ce qu'on vient de dire, Ariel.
Ah bon, je croyais que c'était une crevasse, vous me disiez, il grimpe. Bon, il grimpe seulement sur le toit des maisons.
Sur le toit des maisons.
Mais non, il aiguille d'Étretat. Récemment, il était en couverture du Figaro alors qu'il avait grimpé l'aiguille d'Étretat.
L'aiguille creuse.
L'aiguille creuse à la recherche d'Arsène Lupin, vous voyez.
C'est votre surnom, il paraît, l'aiguille creuse.
Mais on a le droit de monter les aiguilles d'Étretat ?
Il n'y a pas des aiguilles, c'est pas une
horloge. Oui, enfin, je connais. Il y a un pont avec un bout de rocher. Enfin, c'est magnifique.
T'as le droit, j'imagine.
J'ai fait l'éclipse totale en 99 à Étretat. Non, c'est magnifique. Mais...
Attendez, qu'est-ce que vous venez de nous dire ?
Il a vu la lune à Étretat.
À Étretat, t'y vas avec Ariel et Caroline, t'as à la fois l'aiguille creuse et la grosse lune. Ça y est, il se remet à draguer quelqu'un au premier rang. J'ai pas vu la dame que vous draguiez, Pierre.
Bah écoute, elle a une coiffure, tu peux pas la louper, la coiffure.
Enfin, c'est une jeune fille, c'est une étudiante en communication. Il y a un groupe là, 50 étudiants aujourd'hui.
C'est pas possible.
Ah, mais... Vous n'avez quand même pas dragué une étudiante.
Mais non, mais est-ce que les redoublants
Non, il faut que je drague quoi, une académicienne?
Dans communiqué,
une étudiante, bien sûr, comme ça je peux la former.
Dans communiqué, il y a niqué quand même. Hein.
Non, enfin Pierre, c'est des jeunes filles qui n'ont peut-être même pas... Si étudiante, vous avez 18 ans. Vous êtes majeure, mademoiselle.
Qui a déjà baisé? Levez la main.
Hey, mais si t'additionnes les 5, ça fait l'âge de Pierre.
Hein. Des étudiants en communication, en même temps, c'est vrai que Pierre...
Ah oui, c'est formidable.
Et n'y voyons rien de sexuel, vous pourriez leur apprendre, leur enseigner...
La communication.
L'art d'être journaliste.
Mais il y a un sondage qui a été fait chez les étudiants dans les écoles de communication, on leur demandait, est-ce que vous auriez envie de baiser avec Pierre Bénichoux? 97% de réponses, c'était « plus jamais
». Allez bien. Elle est bien. Une question pour Damien Colifrat, qui habite Misson dans les Landes. Et ce sera une question pour Jean-Jacques Perroni, puisqu'il s'agit là encore...
C'est pas possible. Si... Ce sera Misson impossible.
Il s'agit là encore d'une biographie. Et je vais encore vous demander à qui est consacrée cette biographie, signée Monsieur Jean-Noël Castorio, qui publie ses 458 pages chez Payot. Et on apprend, on le savait déjà peut-être pour certains, on nous rappelle en tout cas dans sa biographie, que c'est elle qui fit reléguer et exiler le philosophe romain Sénèque jusqu'en Corse. Qui est cette femme qui fit exiler et reléguer le philosophe Sénèque en Corse?
Cléopâtre?
Cléopâtre, non.
Agrippine?
Non, c'est Agrippine.
Agrippine, non plus.
Lucrèce Borgia?
Lucrèce Borgia, non.
Ah, mais c'est l'époque de Sénèque, c'est les empereurs romains.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
C'est la femme d'un empereur romain.
C'est la femme d'un empereur romain.
La femme d'un empereur romain.
On va la trouver, on va la trouver.
La femme de Vespasien.
Non.
Messaline.
Messaline. Bonne réponse. Bravo. De Jean-Jacques Perroni.
Merci Perroni.
C'était la muse de Loulou Gastet.
Messaline Renaud, non. Messaline, effectivement, la femme de l'empereur Claude. Non, mais Perroni est absolument incroyable.
Il est incroyable, Perroni. C'est incroyable. Incroyable. Je me demande s'il n'y a pas... S'il n'y a pas combine.
Il y a des antisèges dans le pull.
Non.
Non, il s'est vraiment détruit.
Je n'accuse personne. Hein. Mais je crois qu'il y a peut-être un petit billet qui donne de temps en temps.
Bon, enfin, écoutez, d'abord, j'ai pas besoin d'argent.
T'as pas besoin d'argent?
Mais non,
rends-moi,
toujours.
Alors, si t'as pas besoin d'argent, rends-moi ce que tu me dois.
Pas besoin d'argent. Ensuite, Jean-Jacques Perroni n'en a pas.
Et
s'il y avait quelqu'un pour qui j'aurais un peu de compassion, que j'aiderais de temps en temps
à qui je refilerai une
bonne réponse, c'est vous Pierre, parce que je vois bien que vous êtes à la peine dans cette émission, que vous ne trouvez
pas... C'est gentil, pour une fois que j'allais emballer, voilà.
Vous ne trouvez jamais une réponse.
Non, je ne trouve pas de réponse.
Jamais un nom ne vous revient.
Jamais un nom ne me revient.
Ah, c'est pas comme le rôti de veau d'hier soir, ça sent d'ici.
Hier soir, en hommage, il a mangé du navarin.
C'est le même homme qui connaît la vie de Sénèque par cœur et qui dit c'est comme le navarin, ça lui revient. Non mais vraiment, L'âme humaine est d'une profondeur qui me bouleverse. Et comment oui. est-ce possible? Change de pullover tout de suite.
Toi, rentre dans ta chambre.
Mais Saline, c'était en tout cas une femme dont on
une
a...
Une salope, une grande salope.
Ah, bah, on peut dire
oui,
ça.
Non, non, une femme méchante.
Alors, méchante et surtout qui, effectivement, allait courir les bordels le soir.
C'est devenu un nom commun.
Et on dit exactement, c'est un nom propre et un nom commun à la fois.
Évidemment.
Effectivement, Messaline est aussi un nom utilisé dans le langage courant pour désigner une femme...
Légère.
Une femme légère, une pute, on va dire.
Une détaillée.
C'est quand elle est morte, alors Messaline, c'est aussi dans le livre. Hein.
Empoisonnée.
Alors non, pas empoisonnée.
Égorgée.
Non, voyez.
Non, non, là je vous lis, je cite les annales.
Les pêches AFP.
Non, oui, de l'époque, en quelque sorte, les annales de Tacite.
Les annales.
C'est ainsi que ces mémoires s'appellent, les annales de Tacite. On annonça à Claude l'empereur, tandis qu'il dînait, que Messaline était morte, sans préciser si c'était de sa propre main ou de celle d'un autre. Il ne le demanda pas, il réclama une coupe et poursuivit son repas comme d'habitude. C'est bien écrit tout ça quand même, hein, vous vous rendez compte un peu C'était une belle époque, hein, Pierre.
On savait vivre.
Oh, c'était une époque magnifique.
Vous auriez aimé être empereur, je suis
sûr. Mais il a connu l'époque.
Oh, mais j'ai été empereur.
Ah oui.
Pas longtemps, un an, comme ça, je ne sais pas. Mais c'est moi qui ai fait ramener, qui a eu l'idée que j'étais second empereur, et j'ai dit « Amène le corps de Messaline à sa mère, ça lui fera plaisir. » Et bien sûr, on a vu la mère pleurer, on était contents de pas te voir. Non, c'est une époque...
Et tu l'as niqué, Messaline ?
J'ai niqué l'empereur Claude, surtout.
Vous voulez que je vous offre le livre sur Messaline, Jean-Jacques ?
Si vous voulez.
Je vous donne même les coordonnées, comme ça vous pourrez le commander et l'acheter vous-même. Jean-Noël Castorio, Messaline, la putain impériale.
Hein, c'est
même dans le titre, hein, Messaline, la putain impériale, c'est chez Payot. Bravo.
On dirait une entrée au restaurant chinois.
Ça peut ne vous coûter que 990 € et vous pouvez le faire sur Internet. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour...
Un service public ?
Non, un service public, pas tout à fait.
Changer de sexe ?
Changer de sexe, non.
De nationalité ?
De nationalité, non.
De nom ?
De nom, non.
De prénom ?
De prénom, non plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour 990 € sur Internet ?
Se radicaliser,
non.
Vous pensez qu'ici, quelqu'un aurait envie de faire ça ?
Oh, alors je pense que ça pourrait être utile et que ça aurait pu être utile à beaucoup d'entre vous.
Qui en priorité ?
Par exemple, Thierry Ardisson, par exemple, Florian Gazan.
Ah, divorcé ?
Divorcé, bonne réponse. Ah, on sent l'homme concerné. Hein. Vous en êtes à combien de pensions alimentaires, Florian Gazan ?
J'attaque ma deuxième et demie.
Deuxième et demie. Pourquoi et demie ? Il y a une naine.
Ouais. J'embrasse Mimi, ouais. Non, deuxième.
On peut désormais divorcer pour 990 €. C'est ce que proposent certains avocats dans une publicité. Un divorce en ligne, sans juge. Simplifiez votre divorce. 990 € TTC. Suffit d'appuyer sur le sigle démarrer. La procédure.
Mais comment ça sans juge, puisque le divorce, c'est aussi des gens qui tout à coup se battent sur des petites cuillères à café.
Ah non, mais là, il faut être d'accord tous les deux. Là, si vous êtes d'accord tous les deux, paf, ça va vite, évidemment. S'il n'y en a qu'un des deux qui veut divorcer, ça va vous coûter beaucoup plus cher.
Mais pourquoi ça coûte 990 si tout le monde est d'accord?
Oui.
Il y a d'autres services, un conseiller conjugal au téléphone. Si votre femme est une pute, tapez 1. Si elle vous a trompé, tapez étoile. Si vous baisez ailleurs, tapez dièse.
Vous avez divorcé déjà, Chantal, là-dessous ?
Non, jamais, non.
Jamais ?
Non,
vous avez divorcé, non, Ariel ?
Moi, oui. Mais c'était un mariage très secret et un divorce très secret.
Donc, je ne devrais pas le répéter, alors ?
Non, mais ça reste un mystère. Voilà, vous avez dit ça, mais ça reste dans une nébuleuse mystérieuse. C'était avec la femme serpent.
La mouleuse de la gamme.
C'était avec la femme lézard. Vous, Thierry, combien de divorces ?
2 divorces.
Ah, vous voyez, quand même, ça vous a coûté plus cher que ça.
Ah oui, oui, oui.
Ben là, vous voyez, là, avec Audrey, ça vous coûtera que 990 €.
Je ne divorcerai jamais d'Audrey. Comme je lui ai dit l'autre jour, tu n'es pas la première, mais tu seras sûrement la dernière.
Oh,
oh, c'est joli. Non, mais... Tu aurais dû dire quelque chose d'encore mieux.
Oui.
Tu es et la première et la dernière.
Oui, mais elle sait qu'elle n'est pas la première.
Elle fermera tes yeux et ouvrira tes tiroirs.
Ça vous fait rien quand même qu'on soit si nombreux, des millions à la regarder tous les week-ends à 20h. Vous ne vous sentez pas trompé par des millions de Français?
Alors, ça m'excite.
Ah oui?
Ouais.
Et puis là, elle met des rouges à lèvres de pute en ce moment. Tu la pousses un peu trop là. Hein.
Elle est
c'est vrai que tu trouves qu'elle a trop de rouge à lèvres.
Ah, je lui ai dit hier.
Elle en a quasiment autant que Gilles Boulot.
Non, mais ce qui me choque, c'est quand elle fait tournicoter son sac à main en présentant le journal.
Pierre Bénichoux, vous préférez regarder Madame Ardisson ou Laurent Delahousse aux 20h le week-end?
Madame Ardisson.
Ah, vous aussi.
Qu'il est gentil.
Eh oui, parce que. Non, Laurent Delahousse, c'est pas qu'il me fait pas bander. Mais elle est formidable.
Mais vous êtes
elle
bien
est
aimable,
mignonne. Écoutez, vous êtes... Puis en plus, j'ai une telle admiration pour elle. Vivre avec ça.
Une question pour Juliane Badaraco qui habite Aurignac en Dordogne et ça concerne effectivement un chanteur et donc plusieurs chansons même. Ce chanteur d'ailleurs qui, il faut le dire, créa la maison de retraite des artistes à Ris-Orangis.
La Roue-Tourne.
Pourquoi vous dites La Roue-Tourne?
Non, bah oui, ça s'appelle
La Roue-Tourne. Non, La Roue-Tourne, c'est l'association qui permet de financer la maison de retraite de Ris-Orangis et des vieux artistes.
Ouais. Lui, ce chanteur, il a créé cette maison de
retraite. C'est Georgius.
Ce n'est pas Georgius.
C'est Dranem.
Laissez-moi terminer la question, quand même. C'est une question pour Monsieur Bénichoux, ça, normalement. C'est Dranem. Bon, alors, je vais la changer, ma question, puisque c'est Dranem et que vous avez la réponse, Péroni.
Bravo, non, je l'ai pas.
Bravo.
Quel est le plus grand succès du chanteur Dranem qui a donc créé cette maison de retraite pour les artistes à Ris-Orangis?
Ah, Pierre,
viens, Pépère.
Les petits pois.
Viens, pardon.
Ah, les petits pois.
Les petits pois. Excellente réponse, Éric Logérias.
Oh là là.
Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois. C'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois. Ça ne se mange pas avec les doigts.
Mais comment vous savez ça?
Parce que je suis né il y a très, très, très longtemps et j'ai un très bon chirurgien esthétique, c'est tout.
Les petits pois, c'est son plus grand succès.
Eh ben.
Il en a vendu 25 000 exemplaires.
Non, 25 000 boîtes, on dit.
Ouais. 25 000 boîtes. En 1904.
Ah ouais.
Ça date de 1904, ouais, cette chanson, Les petits pois, les petits pois.
J'adore cette époque.
Il a chanté aussi Le trou de mon quai.
Oui.
C'est admirable.
Ah, j'ai eu peur. Admirable.
C'est admirable.
Une des premières chansons homosexuelles à revendiquer l'homosexualité.
Oui. Le trou de mon quai.
Le trou de mon quai, absolument.
Oui. Ah oui,
oui.
Le trou de mon quai, j'ai mis les petits pois d'ailleurs.
Oui, on y mettait ce qu'on voulait d'ailleurs, un peu peur.
La cacahuète. Terra,
ah, ça, je connais pas.
C'est une parodie de la Violetera.
Ah oui,
d'accord. La
Cacahuètera.
Ah oui, et alors, une des chansons qui a le plus marqué son répertoire, c'est Petroni, tu sens la menthe.
Petroni, tu sens la menthe, tu sens la pastille de menthe, tu sens la menthe pastillée, entortillée, dans du papier,
papier, papier doré.
Ça alors. Mais comment vous connaissez ce répertoire?
Mon arrière-grand-mère, Dieu et son âme me chantaient Petroni quand j'étais petit.
Mais ça doit être des chansons de pochetron.
Oui. Mon arrière-grand-mère était pochetronne dans le duo.
Il y a deux chambres qui vous attendent à Ris-Orangis, les deux là.
Une suite royale.
Je la connaissais.
Regardez Pierre Bénichoux. Alors là, il est, mais.
Pas du tout.
Sur le cul.
Non, mais je suis pas. D'accord, la fin, c'est. Petroni, tu sens la menthe, tu sens la menthe, pastillée, entortillée, dans du papier, gommé.
Gommé. Ah oui, gommé, pas doré, gommé.
T'es vrai, pauvre con. Hein. Ouais.
Il a chanté aussi Vla le Rétamor.
Ah non, ça je connais pas.
Ça vous l'avez pas, Vla le Rétamor?
Mais il était avant Ouvrard, alors lui.
Non, maintenant on a Vla le...
En même temps.
V'là le médiator, mais...
La jambe en bois, ça je sais pas ce que c'est la
elle
jambe.
Elle avait une jambe de bois, et pour le sac qu'on l'ouvra, elle avait mis par en dessous des rondelles de caoutchouc. Bois. Elle avait une jambe de bois. Ça nous rajeunit, hein, les jeunes.
Mais c'est toujours en fait, c'est toujours la même chanson.
Une chanson que j'aurais aimé connaître, parce que c'était le prénom de ma maman, Raymonde. Vous connaissez pas ça, Raymonde?
Non. Quand je pense à Raymonde...
James Bond.
Et alors, une autre question. Alors, j'imagine que là aussi, ça a un lien avec le trou de mon quai. Henri, pourquoi n'aimes-tu pas les femmes?
Ah oui, c'est marrant. Ah,
il a chanté ça en 1929, quand même.
Imaginez.
Vous vous rendez compte?
Révolution, à l'époque.
Être légume, l'enfant du cordonnier.
Être légume, c'était bien pour la maison de retraite.
Pour les petits pois.
Pour les petits pois, oui.
Et on en a trouvé une de Dranem dans la discothèque de RTL.
Non.
Ce qui n'est pas facile parce qu'on est en plein déménagement.
Oui.
Écoutez ça.
Il est un truc très rigolo qui s'appelle le yo-yo, que je suis très heureux de jouer quand je peux. Et pour cela, je suis verni, ma femme ayant appris ce petit jeu charmant. Le pratique adroitement quand ma zézette yoyote en se servant de sa menotte.
Oh merde.
Ça s'appelle
je trouve ça merveilleux
quand ma zézette yoyote.
Dans sa petite main fine, elle attrape la bobine. Pendue en deux, elle en fait ce qu'elle veut.
Pendue en deux.
Elle la quitte de la main, puis la reprend soudain. comme si elle tirait le bout d'un caoutchouc. Par ma zézette yoyote, ah, petit bien. Jeu la bobote.
Ça va être repris par Maître Gims.
Elle en joue avec moi.
Par Kenji.
Comme ma zézette. Écoutez, c'est un monsieur. On va pas s'en moquer grâce à lui.
Ah non, mais c'était très très drôle. Grâce à lui, en avance, hein.
Grâce à lui, les artistes ont une maison de retraite.
En plus.
Harry Sorangis.
C'est pas lui qui a fait Emilienne, non?
C'est quoi Emilienne?
C'était toi qui t'appelle Emilienne.
C'est-y-toi. Ou c'est-y pas toi, si c'est toi, ta mère a dit que tu reviennes.
Que tu reviennes
chez toi.
Ah non, c'est pas lui, ça.
Non.
C'est Georges Milton qui a chanté Emilienne. Vous confondez Georges Milton et Dranem.
Oui,
c'est honteux. Mais vous savez, c'était une époque merveilleuse où les chanteurs
Dranem,
chantaient des
Black
chansons.
M, vous croyez que c'est son fils?
Les gens chantaient des chansons idiotes et ça faisait des gros succès. Et je trouve ça génial. Et moi, c'est pour ça que j'aime cette époque et je connais un petit peu l'époque parce que je trouve ça formidable. Et c'est fini, il n'y a plus de chansons
idiotes. Mais il devait être homosexuel, effectivement, oui, maintenant que vous me le dites.
Parce Milton aussi.
Il y a une autre chanson qui s'appelle J'en suis, hein.
Oui, ouais, c'est possible.
Non, mais parce que c'était vachement, là, pour le coup, de l'assumer à l'époque,
l'époque oui.
C'était vachement courageux.
Ah, c'était les années folles, hein.
C'est vrai.
Il y avait une chanson.
Depuis
de
que je suis militaire, oui. C'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire, je me fais un mauvais sans fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai le foie qui est pas droit, les mollets trop épais, les tibias plat. J'ai le cœur en largeur et puis j'ai ajouté, voyez-vous, c'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, etc., etc. Ça, c'était Ouvrard.
Les grosses têtes de Philippe Ouvrard. Je vais vous donner la date de naissance, la date aussi de décès de quelqu'un dont il faut retrouver le nom.
Ah, c'est étonnant.
Quelqu'un qui fut géographe, mathématicien, dont tout le monde connaît le nom dans le monde entier. Il était né au Pays de Galles, à Crickerwell, au Pays de Galles, en 1790. Et il est mort le 1er décembre 1866 à Londres, plus précisément même à Greenwich, en 1866. Tout le monde connaît le nom de ce géographe britannique.
Darwin,
non.
Richter,
non.
Marco Polo,
Marco Polo.
Non.
Mais...
Oh là, qu'est-ce qu'il est con. Mais il est con comme la lune, va monter dans ce là-haut.
Marco Polo, c'est pas au 19e siècle, Stéphane.
Non, mais ça a permis de détendre un peu l'atmosphère. Et c'est important aussi qu'on ne soit pas qu'intellectuel.
Est-ce qu'il a donné
Celsius.
Voilà.
Est-ce qu'il a donné son nom à une unité?
Celsius.
Oui.
Bravo, hein, Michel.
Non, c'est pas ça.
Non.
Fahrenheit,
non.
Il a donné son nom à une unité.
Pi 3/14. Pas d'ailleurs.
Il a donné le nom à qui alors?
Ah bah.
C'est un nom célèbre.
Oui.
Il a donné le nom
pour
à
pour une autre raison.
Vous faites une découverte.
Ah, en quelque sorte.
Est-ce qu'il est célèbre? Est-ce qu'il y a une autre personne célèbre que lui?
Non, mais c'est pas par hasard si je vous ai précisé qu'il fut géographe, mathématicien. Et effectivement, il est une vedette dans tout le Royaume-Uni, mais dans le monde entier, on connaît son nom.
Mais à cause de sa découverte...
Ça, je vous mets au défi de trouver quelqu'un ici dans la salle ou vous-même qui ne connaît pas son nom.
C'est pas Francis Galton?
Pardon?
Galton.
Tout le monde connaît Galton.
Les frères Galton, oui.
Agada, Voilà les Galton.
Voilà les Galton.
Il a un nom connu pas parce qu'il est géographe, il a fait un truc de géographie.
Évidemment, Chantal.
Bien sûr, genre Fahrenheit.
Alors donc c'est pour mesurer
le docteur Livingstone.
Exemple,
Livingstone, non.
Et si tout le monde connaît, est-ce que c'est pas un peu comme si on avait trouvé?
C'est très drôle. Monsieur Palman, mais ici c'est pas un peu comme si, il faut vraiment d'accord. Donner la réponse.
Et alors,
Harry Potter,
quoi?
Bah tout le monde connaît Harry Potter.
Oui, c'est Potter et pas Potter.
Oui, les Sœurs à fil aussi, c'est pas une raison.
Cet homme a donné les noms à un endroit du monde.
Oui, madame.
Rushmore,
non.
Un truc dans la glace.
Ah, on se rapproche, madame.
Voilà. Le Riga.
C'est près de l'Argentine, non?
Non, c'est pas en Argentine. Non.
C'est près du pôle Nord?
Non, c'est pas près du pôle Nord.
Près du pôle Sud?
Non.
Si, c'est pas de la glace, vous avez dit, non?
J'ai dit qu'il y avait de la glace, oui.
Ah.
Alors, Everest.
C'est une omelette norvégienne.
Pardon, Everest.
Georges Everest. Ah. Bonne réponse de Florian Gazan.
Bravo.
Eh oui. On l'ignore, mais l'Everest, le toit du monde, eh bien, cette montagne doit son nom, en fait, à un géographe britannique, incroyable. Arpenteur, général des Indes de 1830 à 1843. Ensuite, il est revenu au Royaume-Uni. Mais Georges Everest a donné son nom à cette...
Et ça a fait de l'ombre à Monsieur Mont-Blanc.
Et je te moi, je pas, dis, heureusement,
dont on adorait les crèmes, en plus. Ouais.
Heureusement qu'il avait un joli nom. Hein.
Ah bah oui, l'Everest.
Parce que Canigou, c'est pas terrible.
Et Jean-Michel Kilimanjaro, tu le connais ?
C'est vrai qu'on préfère les boîtes de Mont-Blanc aux boîtes de Canigou.
Ah oui, à choisir.
On est
choisir.
D'accord.
Et pour ce printemps, sachez que le Népal a un chiffre record de 380 permis d'alpinistes étrangers. Il faut dire qu'ils font beaucoup d'argent avec ça. C'est à peu près 11 000 dollars le permis pour monter.
Le permis pour mourir, en gros.
Et c'est oui, ça. C'est 11 000 dollars le permis pour monter l'Everest. Et comme en plus, chaque personne est accompagnée par un vrai alpiniste, ça fait que vous multipliez par deux. Il y avait 750 alpinistes sur la même voie en quelques semaines. C'était en tout cas une bonne réponse de Florian Gazan. Mister Everest a réellement existé. Qui a inventé, sans le vouloir au départ, le corso fleuri avec une bataille de fleurs improvisée qui eut lieu à Luchon au mois d'août. Et c'est ainsi que naquit pour la première fois cette tradition du corso fleuri.
Quelle année, ça ?
Alors, ça a été inventé à la fin du 19e siècle.
Et qu'est-ce que c'est qu'un corso ?
Vous savez pas ce que c'est qu'un corso fleuri ? Un corso fleuri, c'est un défilé de chars fleuris. Les gens jettent des confettis, des fleurs. Oui. C'est ça, un corso fleuri, vous voyez ?
D'accord. Bah, voilà. Excusez-moi, mais je suis né à Paris. J'en ai pas vu beaucoup.
C'est un homme qui a inventé.
Ah, les Parisiens ne connaissent pas le corso fleuri.
Oui, mais en Normandie, il y en a partout.
Ici, on jette des caisses pourries dans la Seine.
Au Havre, c'était l'événement du dimanche.
Et puis, il y a la reine au-dessus du char.
Moi, je me souviens, au Havre, je vais le raconter une fois de plus, qu'on faisait nous-mêmes les confettis. C'est-à-dire que ma maman a acheté une perforeuse. D'ailleurs, c'était un investissement pour plusieurs années, parce qu'une perforeuse...
ça perfore le sang.
Ça dure. Ouais. Et donc, on faisait nous-mêmes nos confettis en perforant des feuilles. Que ça nous évitait d'acheter des confettis sur le boulevard Thiers au Havre.
Mais alors, ils étaient tous de la même couleur, vos confettis ?
Bah oui.
Il y avait des feuilles ça, c'était moins rigolo.
Ah alors. Bah oui, mais parfois, on avait les années où mon père faisait des heures supplémentaires, on achetait des feuilles roses.
Mais et quand il n'y avait plus de feuilles, comment faisiez vous n'allez pas à la fête?
Non, mais c'est quand même chouette, le corso fleuri.
Ah, c'est très beau.
Moi, j'adorais aller au corso. Parfois aussi, on ramassait les confettis sur le trottoir pour les rejeter dans la gueule de la reine du jour.
Ça, c'est bien ça. Quand un chien est passé juste avant.
Juste avant, oui.
Et alors, du coup, c'était quoi la question?
La question, c'est qui, sans le vouloir, a inventé le corso fleuri à la fin du 19e siècle?
C'est un personnage historique?
Oh, historique, le mot est fort, mais oui, il fait partie de l'histoire. Et,
c'est
un homme.
Il a fait de la politique ?
Non, il n'a pas fait de politique.
Est-ce que ça s'est passé pendant un enterrement ?
Pas du tout.
C'est un peintre ?
Un peintre, non.
Un auteur ?
Victor Hugo ?
Victor Hugo, non.
Un auteur ?
Un auteur, oui.
Français ?
Auteur de...
Auteur français.
De romans ?
Auteur de romans, alors plutôt dramaturge, mais aussi essayiste, poète.
Dramaturge drôle. De Maurice Donnet ?
Maurice Donnet, non.
Il était de la région ?
Ah, il était de la région. En tout cas, Luchon est une ville, évidemment, où il a, j'imagine, de nombreuses statues. Et en tout cas,
Fédo.
Une ville où il a passé plus de 22 étés. Et c'est même là, je crois, qu'il a écrit son chef-d'œuvre.
Maupassant. Il est mort quand ?
Ah, il est mort, je vais vous dire, en 1918.
Paul Jean Toulet.
C'est pas le 18.
C'est pas le pauvre mec qui a écrit qu'un seul roman qui est qui est mort après.
Radiguet ? Non.
Non, il a écrit au moins trois grandes pièces.
D'accord.
Edmond Rostand ?
Edmond Rostand. Excellente réponse de Titoff. Et oui, en lui.
Non, mais quand on est l'intellectuel de l'émission ne fait pas le boulot, il faut le faire à sa place.
Merci de me remplacer, Titoff. Titoff, oui, je t'appelle
Titoff. On lui doit Chanteclerc, L'Aiglon et évidemment Cyrano de Bergerac. Il y a une pièce qui cartonne en ce moment à Paris qui s'appelle Edmond, qui lui est entièrement consacrée. Michalik, pas Michalak.
Michalik. Ah putain, oui.
Michalik. Effectivement, c'est Alexis Michalik qui a écrit cette pièce qui raconte la genèse de Cyrano de Bergerac. Et ça femme s'appelait Rosemonde.
Oui, Rosemonde.
La première, parce qu'il en a eu plusieurs, à Edmond Rostand. Et en tout cas, c'est lui qui, effectivement, il était né à Marseille. C'est peut-être pour ça aussi que vous le connaissez bien, monsieur.
Oui,
parce qu'il a dit Pagnol tout à l'heure. Oui. Edmond Rostand, il connaît que la région, en fait.
Ouais, c'est ça, vas-y, dénigrer mon travail.
On a eu du bol, il n'a pas dit Zinedine Zidane.
voilà, ouais.
Mais non, mon
Titi. Toujours à dénigrer les gens du Sud, comme ça.
Non, bravo, monsieur Titoff, quand même. Vraiment. Je vous vois bien jouer Cyrano. De toute façon.
J'ai déjà
il ment tout le temps, ça sert à
rien. C'est pas vrai.
Mais il ment pas, Cyrano.
Mais Cyrano, oui, c'est pas Pinocchio.
Ah oui, c'est vrai.
Ah Une question pour Marc Basseporte, qui habite en Tanzanie, car on nous écoute depuis l'Afrique. Évidemment, j'ai eu un doute d'un coup.
Oui, c'est ça.
Là-bas.
En plus, j'ai eu la chance d'y aller en Tanzanie. Donc, non, je vous confirme, mais c'est bien en Afrique, la Tanzanie. Et Monsieur Basseporte doit écouter, évidemment, sur un podcast ou sur son ordinateur, Les Grosses Têtes. On lui souhaite de toucher un chèque RTL. Et à mon avis, il a ses chances. Il a ses chances car la question n'est pas si simple. Pourtant, vous connaissez tous le nom de cet académicien français qui fut fait maréchal de France en 1783, devint secrétaire d'État à la guerre pendant 5 mois en 1789 et qui mourut dans son lit en plein milieu de la terreur, laissant une veuve inconsolable.
Il s'appelait comment, la veuve ?
Vous connaissez tous son nom et de celui qui est mort et de la veuve.
Lafayette ?
Lafayette, non.
Est-ce qu'il a une rue à Paris ?
Mieux qu'une rue.
Un boulevard, un quartier. Les Maréchaux.
Les Maréchaux, oui. Alors, il s'appelait.
Monsieur les Maréchaux. Les Maréchaux.
Non, monsieur Ney.
Ney, non. Il était prince, il a été fait maréchal de France, il est devenu secrétaire d'État à la guerre en 1789, 5 mois seulement, mais il est mort pendant la Révolution, mais pas du tout déguillotiné quoi que ce soit, il est mort de sa belle mort, enfin sa belle mort.
Bah si, quand on gardait sa tête à cette époque, c'était
voilà,
une belle mort.
C'est déjà pas mal, vous êtes d'accord.
Ah oui.
Suchet.
Il a plus qu'une rue, il a...
Ah oui, il a mieux qu'une rue.
Ah oui, alors il a un monument.
Un boulevard.
Un bâtiment.
Un bâtiment, non.
Une ville qui porte son nom.
Non, non, pas une ville.
Un boulevard.
Il y a sûrement une ville qui porte son nom aussi, mais ça c'est par hasard. Mais en
une
tout
avenue.
Cas, une avenue. Écoutez, je vais pas vous dire quoi, en tout cas... Tout le monde connaît son nom sans savoir qui c'est, au fond. Et voilà pourquoi je viens de vous dire qui c'était.
Mais Henri Martin, Georges Mandel, Boulevard Suchet. Oh. Non, non, non.
on n'a pas besoin de savoir tous les endroits où tu fais la pute. Hein.
Est-ce que quand on en parle, on dit le maréchal quelque chose?
Non, 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 non. Non, on ne sait pas qui c'est, cet homme-là. On connaît son nom sans savoir qui c'est. Voilà pourquoi je tenais à vous rappeler qui il était. Il fut académicien français. Il a participé activement aux travaux académiques, alors qu'il n'avait jamais rien écrit, en plus. Hein. Il a été nommé à l'Académie française en 1771. Avant de devenir maréchal de France, il était prince, secrétaire d'État à la guerre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
Son nom.
Ah bah...
Il est très connu.
Est-ce que c'est une marque, par exemple?
Ah non, une marque, non. Non,
mais c'est une ville, il y a une ville qui s'appelle...
Non, non, un bâtiment, moi, je pense.
Un peu tout ça.
Un mug.
Un peu tout
une école,
ça.
Une école.
Oh non, pas
une église.
Non, non, non. Il y a un livre, en tout cas, qui est sorti tout récemment, qui nous rappelle ce nom que tout le monde connaît, sans savoir qui c'est.
Des Nouettes.
Qu'est-ce que vous dites?
Des Nouettes.
Ça vient d'où, ça?
Ben, je suis passé par là tout à l'heure, et je me dis...
Vous n'allez pas me faire toutes les rues de Paris, Chantal.
Bah si, justement, c'est...
Laurent, est-ce qu'il y a un nom commun qui vient de son nom?
Oui, forcément.
Non, pas spécialement.
Ah non, mais non. Bah non.
Est-ce qu'on peut le trouver ou pas du tout?
Mais oui, puisque je vous dis, vous connaissez tous son nom.
Mais vous demandez simplement dans quel arrondissement non, est-ce que cet homme possède une rue ou une...
Mais on ne sait pas s'il possède
non,
une
on
rue.
On connaît tous son nom, mais pas non, par rapport à lui.
Non, c'est ça.
C'est un nom qui passait dans le langage commun.
Ça, c'est intelligent.
Mais est-ce qu'on connaît son nom parce que ça vient de lui ou est-ce que c'est un hasard total?
Ah non, non, c'est son nom qui a été donné à quelque chose et dans Paris et que tout le monde connaît sans qu'on sache qui c'est.
Ah, la Tour Eiffel, par exemple.
Pardon?
La Tour Eiffel, par exemple.
Oui, mais ça, on sait que c'est Gustave Eiffel. Ah, oui.
Il y a un indice dans
les catacombes.
Les catacombes. Monsieur Catacombe.
Monsieur Catacombe.
Le périph.
Monsieur périph.
Trocadéro.
Non.
Monsieur Rive Gauche.
Non, Monsieur Rive Gauche, non.
Folie-Bergère.
Monsieur Folie-Bergère, non, écoutez, franchement.
Ah, Monsieur Lido.
Monsieur Lido, mais non.
Pensez aussi.
Non, je vous ai dit, il avait mieux qu'une rue dans Paris. Mieux qu'une rue, c'est quoi?
Un pont. Monsieur Champs-Élysées.
Un pont. Un pont, non.
Monsieur Brioche Doré.
Un monument.
Un monument, non.
L'Arc de Triomphe.
L'Arc de Triomphe, mais non, il n'y a pas Monsieur Madame Arc de Triomphe.
Une église.
Une église, non.
Le palais de Chaillot.
Le palais de Chaillot. La folle, elle est là, de Chaillot.
Un jardin.
Le palais.
Un jardin.
Il a ce monsieur, académicien français, académicien dès 1771, alors qu'il n'avait jamais rien écrit, qui fut maréchal de France, prince au départ, secrétaire d'État à la guerre pendant 5 mois sous la Révolution, mort dans son lit pendant la terreur.
Oh,
ce monsieur a une place célèbre.
Beauvau.
La place Beauvau.
Ah bah.
Et il y a un livre, évidemment, dont tout le monde parle depuis plusieurs semaines, qui s'appelle Bienvenue, place Beauvau. Et personne ne sait, évidemment, qui était monsieur Beauvau. 300 euros pour notre auditeur. Bravo.
C'est devenu haut le niveau ici quand même. Hein.
Pourquoi ?
Il y a une période où il fallait répondre Scheim, par exemple. Moi j'aimais bien.
Quand même la place Beauvau, vous connaissez ?
Non, bien sûr qu'on la connaît, mais je ne savais pas d'où ça venait.
C'était trouvable.
On l'apprend. Oui.
Beauvau.
Oh, ouais, on n'a pas pensé bien.
Le ministère de l'Intérieur, maintenant, on le désigne toujours par Beauvau. Vous allez aller à Beauvau, oui. Et la place Beauvau, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dans l'actualité.
Oui, moi, beaucoup. Personnellement, je vais très rarement à la place Beauvau et au ministère de l'Intérieur.
Non, mais place Bellevache, peut-être vous y allez. Une question pour Marie Bocoral qui habite Dunkerque. Qui aurait dû accepter l'amputation puisqu'il refusa l'amputation? La gangrène s'est propagée au reste du corps et a infecté jusqu'à son cerveau. Il en est mort quelques jours plus tard, le 22 mars 1687 précisément. Il n'avait que 55 ans. De qui s'agit-il?
Cervantes.
Cervantes, non.
Un Français?
Un Français, oui.
Qui faisait partie de la cour?
Oui, il faisait partie de la cour, monsieur.
Lully?
Lully, bonne réponse, ouais. Stevie.
Bah alors...
Vous pouvez expliquer, Stevie, alors comment ça lui est arrivé?
Je me rappelle plus trop de l'histoire, mais...
Jean-Baptiste Lully.
Il pas avec le machin pour battre la mesure. Exactement.
Ah oui, voilà,
ah oui,
c'est ça.
Il avait un ongle incarné.
Voilà. Il doit diriger un tédéum pour la guérison du roi qui est atteint d'une fistule anale, vous le savez.
Non,
je suis désolé, je vous donne des détails, mais...
Oui.
Et il fait jouer ses musiciens et il fait répéter les musiciens, mais il est un peu coléreux, Lully. Il se blesse un orteil.
C'est ballot, quand même.
Avec sa baguette,
oui. Oui, mais quelle idée de diriger un orchestre.
Non, le bâton.
Diriger un orchestre en tongs.
Oui, c'est vrai que c'est pas la baguette, c'est
la canne, sa grosse canne. Il avait une canne très lourde, lui.
Oui, c'est un gros bâton, en fait. Hein. Oui. Un bâton de direction. On n'appelait pas ça une baguette, on appelait ça un bâton de direction. Et il frappe son orteil pour battre la mesure. Ah,
aïe.
Il se fait mal. Une de ses jambes va finir par s'infecter. Et comme il voulait danser, il aimait danser, Lully, eh bien, il a refusé l'amputation pour pouvoir continuer à danser. Sauf que, comme on ne l'a pas amputé, la gangrène s'est propagée jusqu'au reste du cerveau, comme je vous l'ai dit. Bravo, monsieur Boulet, bravo, Stevie. Il pourrait rentrer à l'Académie française, monsieur Lambron.
Est-ce qu'il connaît si tous les poèmes que l'on fait à Paris écrivaient des chansons comme Monsieur Lully, et si toutes les plumes avaient vers la nos becs, et chacun sa chacune, on ne vivrait plus qu'avec la fortune, quelque thune.
Je pense qu'il va gagner le voyage, on ne connaît pas
l'interprète. La lune.
C'est de Léo Ferré.
Cette lune.
Léo Ferré, bonne réponse, on va l'interrompre. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. J'ai une autre question pour Eric Guibert, qui habite Thomery, c'est en Seine-et-Marne. Et la question concerne les sœurs bien élevées, c'est le nom qu'on leur donne, ce sont quatre sœurs qui ont créé une entreprise du même nom, les sœurs bien élevées. Et cette entreprise a placé sur les toits de Paris une culture qui rapporte pas mal d'ailleurs, c'est une culture assez étonnante. J'ignorais qu'il y en avait sur les toits de Paris. De quelle culture s'agit-il?
Le miel?
C'est pas des ruches?
Des ruches, non. Ruches,
on sait. C'est en quelle année? C'est pas...
ça aurait été trop facile. Non, c'est actuellement. Hein.
Du hashish.
Du hashish, non.
Des salades.
Alors, il y en a sur le toit de l'Institut du monde arabe.
Des bambous?
Non, il y en a sur le toit d'un supermarché du 13e arrondissement de Paris. Il y en a sur les terrasses qui surplombent le lycée boulevard Raspail.
De la vigne?
De la vigne, non.
Mais vous cherchez quoi? Une plante?
Oui, non. Une plante.
Du fenouil?
Du fenouil, non.
Du
non.
Lierre?
Et alors, oui. C'est une des plantes. Enfin, plante, est-ce qu'on peut considérer...
C'est un légumes.
Passiflore.
Aromate, oui, on peut considérer.
Romarin, thym,
non.
Poivrier. Ça permet de lutter contre la pollution.
Ce sont des crocus sativus qu'on cultive.
Du safran.
Du safran. Encore une bonne réponse de Stevie. On a installé des safranières sur les toits de Paris.
Ah bah ça va faire baisser le cours du safran alors. Parce que,
pourquoi?
Parce que le safran est l'épice la plus chère du monde.
Ah ben voilà, c'est ce qu'on appelle l'or rouge, le safran.
Et on cher, le safran.
Et on en récolte.
Moi, de mon jardin, moi.
Oh. Ah, vous avez du safran dans votre jardin?
Ah bah oui.
Mais comment tu fais pour avoir du...
Bah, j'ai mis des bulbes de safran. Parce que le safran, ça pousse... En fait, c'est comme des crocus, sauf que le crocus, ça pousse au début de l'hiver. Or, le safran, ça pousse l'automne. Et c'est là que tu récoltes. Là, le safran, c'est en ce moment. Hein.
Si ça coûte si cher, c'est que ça doit être difficile à
oui,
produire.
Ben oui.
Alors, comment peux-tu, dans ton gourbi...
mon gourbi...
Dans ton gourbi de la banlieue du Mans, faire le truc le plus difficile au monde.
Ça coûte cher parce qu'on ne récolte qu'un gramme de safran pour 150 grammes de crocus.
Ah ouais.
Voilà le problème.
Parce que tu prends que le pistil. Le safran, c'est pas toute la fleur, c'est juste le pistil.
C'est-à-dire, c'est une petite fleur violette.
Et t'as trois pistils par fleur, en gros.
Il suffit de pincer la tige du crocus sativus. Mm-hmm. Viens voir mon crocus sativus. Tige et t'auras mon safran. Et là, ça va casser, en fait. Ouais, et ça coûte évidemment très cher, d'où son surnom, l'or rouge. C'est jusqu'à 30 à 40 euros le gramme, le safran. Tous chez Stevie.
J'ai fait un, comme je fais tout le temps, là, un flash. Un surfing, qu'ils disent en Belgique.
Un quoi ?
Un surfing.
C'est quoi un surfing ?
Ça donne l'effet que je reviens de la plage pour les gens.
Sauf que là, il n'y a plus de cheveux sur le côté.
Ouais. Non, c'est parce que je suis
devenu un footballeur marseillais. Un peu.
Oh, c'est bien,
il est passé devant un radar.
Non, mais sérieusement, là, votre coiffeur vous a fait, il a raison, Gisbert, une coupe de footballeur, j'en sais.
Est-ce qu'il y a du cirage ?
Mais non, mais c'était pour donner un coup de.
Ah oui, il y a du cirage.
Je supporte pas qu'on touche mes cheveux.
Gisbert vient de caresser Jean-Philippe.
Quel horreur.
Oui, c'est très agréable.
Et t'as vu, il a les cheveux qui se dressent.
Ah oui, il y avait des frissons partout.
Il a 15 cm de cheveux.
Il y a des frissons dans le dos.
Il y a un côté David Croquette sur la queue.
Non, la queue est sur le front.
Ça donne un petit coup. Ça donne un petit coup de gêne. Ça fait un pouf.
Ça donne un côté Tintin. Mais on se demande cette mode d'où elle sort. Elle sort des footballeurs. Il faut pas forcément les croire que c'est beau.
T'as vu ta gueule, toi, et tes cheveux.
Bah moi c'est naturel, moi,
c'est un coiffeur paysagiste qui est là.
Elle a toujours eu les cheveux frisottants comme ça, notre
j'ai
Valérie.
Toujours eu ça.
Elle a pas changé de coiffure depuis. Oh là,
ça frise parce que t'es humide.
Mais c'est étrange parce que mignon, le fait de couper très court sur les côtés, de laisser tout le dessus. Moi, je ne peux pas.
Mais je ne te demande rien.
C'est une coiffure de footballeur, mais pas que sur le dessus. Non, plutôt sur les côtés, parce que t'es un peu con sur les bords.
Voilà, c'est ça.
Non, mais je savais pas qu'il était coiffeur, Gilbert Montagné.
Oh, tu sais ce qu'elle fait, sa femme, quand il s'engueule, d'ailleurs ? Non. Ah, Gilbert Montagné. Elle change les meubles de place.
Aïe, 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 aïe.
Ça m'est arrivé, c'est pas très drôle.
Il est temps de commencer par une première citation, et ce sera une citation pour Florence Cloquier, qui habite Quincampoix, qui a dit « C'est quand même pratique les montres qui sont étanches jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au cas une dorade te demanderait l'or. »
Coluche.
Coluche, ouais.
Pas Coluche.
Pierre Desproges. Pierre Desproges. Jean-Yann.
Jean-Yann, bonne réponse de Chantal là-dessus. Une citation pour Séverine Mathieu, qui habite Sansac-l'Église, qui a dit « Quand on meurt de faim, il se trouve toujours un ami pour vous offrir à boire. »
Ah, c'est joli, ça.
Ça, c'est un écrivain ou un humoriste ?
Un écrivain mort.
Mort il y a longtemps ?
Mort il y a un petit moment déjà, oui. Mort en 91.
Français ?
Français, bien
un
français.
Un peu poète ?
Bazin ?
Pas poète, mais j'ai l'impression que la réponse est dans la question.
Blondin ?
Antoine Blondin. Réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Rémi Doshi, qui habite Damary-les-Lys en Seine-et-Marne, qui a dit « Il est plus facile de jouer au Mikado avec des spaghettis crus qu'avec des spaghettis cuits. »
Desproges.
Pas Pierre Desproges, non.
Non, c'est Coluche.
C'est pas Coluche.
C'est pas Alex Métayer.
Alex Métayer.
Ah non, ouais. Pas du tout.
C'est mort. Francis Blanche.
C'est quelqu'un qui est bien vivant.
Ah, qui est bien vivant.
Daniel Prévost. Tim Sit.
Prévost, Tim Sit, non.
Mais ces gens-là ?
Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît bien.
Humoriste ?
Gaspard Proust.
Non.
Nouvelle génération.
Gad Elmaleh. Vincent De Dienne.
Vincent De Dienne.
Éboué.
Éboué. Non, Elie Moon, non.
Il est déjà venu
il
ici.
Voilà une bonne question. Ouais.
Il est déjà venu ici.
Il est déjà venu, il vient souvent ici.
Mais quoi, comme grosse tête ou comme.
Comme grosse tête.
S'il vient François souvent, c'est Rollin. Que.
Elle est con, sa question.
François Rollin.
Attendez,
mais
Valérie,
attendez,
dites-lui.
Il est un peu con, ce mec. Hein.
Ah non, ah non, non. Non, non, parce qu'il peut venir comme invité mystère, cocotte.
Oui, oh.
Mais, oh.
Mais pas souvent.
Il vient pas tous les jours.
Il vient souvent. Si on prend l'invité mystère deux fois par semaine, il est plus du tout mystère.
Souvent, il peut venir une fois par an pendant 10 ans.
Donc, François Olivier, non, non.
Ouais, ouais, ouais.
ouais, Valérie.
Quand tu viens ça. Deux fois par semaine,
alors
c'est
il vient régulièrement. Elie Moon.
Elie Moon, non.
Non.
Un copain
mais,
à nous.
Mais il fait du one
c'est
man
Bigard.
Show.
Pardon.
C'est Bigard.
Non, c'est pas Bigard, mais non.
Ah bon. C'est, ah bah c'est vous, Thierry Roland.
Ah bah c'est le,
ah bah, je suis pas Thierry Roland.
Laurent Baffi, c'est Laurent Ruquier. Ça, c'est pour un truc aussi drôle, ça peut être que vous. Ah oui.
C'est bien, mon petit Gérard, mais ce n'est pas moi.
Vous auriez pu le dire.
Hein. Ah oui, ah oui, ouais, ah mais oui. Mais c'est quelqu'un bon, hein. Avec qui je travaille depuis 30 ans, voyez-vous.
Jean-Baptiste Le Caplain.
Mais non.
Bah oui, 30 ans, bah c'est notre ami Bénichou.
Mais non, pas Pierre Bénichou.
Bah 30 ans, c'est
je travaillais avec lui encore plus depuis plus longtemps qu'avec Pierre Bénichou.
Jacques ouais. Martin.
Mais non.
Jacques Perroni.
Raymond Devos.
Perroni.
Mais non.
Gérard Miller.
Oh, mais non. Gérard Miller, il est en train de
lisser.
Gueuluc. Oh bah gueulez pas tout le monde en même temps.
Gueuluc.
Tout le monde gueule Gueuluc.
Oui.
Et
oui.
C'est Philippe Gueuluc. Ouais. Une marque. Il faut retrouver le nom d'une marque qu'on peut voir de nombreuses fois dans la presse aujourd'hui. Une marque qui a été créée en 1936. Vous voyez, c'est pas d'hier. Elle a été créée par Henri Malvoisin et d'abord, elle était d'ailleurs vendue, cette marque, en pharmacie dans un premier temps. De quelle marque s'agit-il ?
De la chicorée ?
Chicorée, non.
Pour des pansements ?
Des pansements, non.
C'est un liquide ? C'est un liquide ?
C'est un liquide.
Non, et c'est un liquide ou ça se met dans du liquide ?
Non, c'est un liquide et ça se boit.
T'as sirop.
Un sirop.
Typhon.
Alors sirop, est-ce qu'on peut dire sirop ? Pas tout à fait sirop.
C'est de l'eau ?
De l'eau, non.
Du miel ?
Ça a été créé donc en 1936.
Oh, c'est
choum,
du lait.
Là, c'est le truc choum.
C'est pas Schweppes ?
Schweppes, non.
C'est du lait démaquillant.
Ce n'est pas du. Ah, vous buvez du lait démaquillant, ouais. Vous.
C'est pour l'intérieur.
Quelque chose m'a échappé probablement.
Ah, mais... Faut dire que c'est dégueulasse à l'intérieur.
Ouais. Hein. Mais moi, je me maquille toujours les amygdales. Attends. Tous les matins.
Ça s'achète en pharmacie, vous avez dit ?
Non, au départ. Ça s'est acheté en pharmacie en 1900.
Et à l'arrivée ?
Ah bah à l'arrivée, ça s'achète dans les grandes surfaces.
Et on dit je vais m'acheter un ou une bouteille.
Du ou on dit
du...
pas d'ailleurs.
Ah,
c'est une marque. Il y a beaucoup de concurrence pour cette marque, donc on va pas forcément acheter cette marque-là quand on va l'acheter.
Du pastis ?
Du pastis. Non.
C'est pas alcoolisé.
Ce n'est pas alcoolisé.
Est-ce que c'est sous ?
Mais vous auriez dû retenir que c'est une marque qu'on voit énormément. En tout cas le nom.
Ah Joker.
Pardon.
Joker.
Joker. Bonne bravo. Réponse. De Florian Gazan, et oui, Joker.
Alors Joker était d'abord en pharmacie en 1900.
Exactement, avant d'être une marque de jus de fruits, évidemment, Joker, c'était d'abord vendu en pharmacie.
Pour les vitamines.
Sûrement, pour les vitamines. C'est le docteur Henri Malvoisin, je pense qu'il était docteur, mais il sera content de toute façon. Henri Malvoisin, qui en 36, effectivement...
Ouais, c'est surtout qu'il vous entend pas, là.
...a créé la marque 1...
Je pense qu'il ne vous entend pas.
Hein ?
Oui, j'ai entendu.
Joker.
Oh, je savais que...
Ah, tu sais où il habitait ? Pour le coup, c'est vrai, il habitait à Palier, dans l'Eure. Il est Malvoisin de Palier, c'est marqué, regarde.
C'est pour ça que tu m'as coupé, quoi.
Pardon, excuse-moi.
Oui, Valérie.
Je savais qu'il y aurait une question sur Joker, mais elle était tellement...
Ah oui, oui.
Bizarrement posé que j'ai
ah
pas
bah
oui. pensé.
Ah ben c'est comme ça, hein, cette émission. Et d'ailleurs, j'avais une petite question subsidiaire pour donner une autre chance quand même à notre auditeur. Mais hélas, en présence de Florian Gazan, j'ai bien peur que notre auditeur...
Non, parce que nous c'est de la crotte. Ouais. Ouais, c'est sûr. Non, vas-y, faites le truc, nous on fait
bon,
l'animation
d'accord,
autour.
Florian Gazan, vous ne répondez pas.
C'est sur Batman et Muriel Robin.
Ah, c'est vrai que Joker, c'est l'ennemi de Batman. Oui. Et que l'ami de Batman, c'est Robin. Mais justement, ce film Joker, dont tout le monde parle, qui sort aujourd'hui. On va pas poser une question sur Joaquin Phoenix, je l'ai fait déjà hier. On va poser une question plutôt sur le réalisateur Todd Phillips, on n'en parle peut-être pas assez du réalisateur du film Todd Phillips. On lui doit une trilogie à ce réalisateur, laquelle ?
Oui,
il le sait, Gazan.
Les aventures
Star Wars.
Avec Harrison Ford.
Non.
Non, Star Wars ?
Non, trilogie.
Le Seigneur des Anneaux.
Le Seigneur des Anneaux, non. Ah, vous voyez, quand Gazan répond pas, c'est pas facile.
Mais oui, mais ça fait gagner l'auditeur.
Dans quelle décennie était-ce ?
Ah, c'est très récent, évidemment. C'est un réalisateur qui vient de réaliser Joker, il est pas vieux, vous voyez.
Donc une trilogie, mais c'est pas genre machin 1, machin 2, machin 3.
Ah, si, il y en a eu 3.
Oui, il y en a eu 3.
D'où le principe de la trilogie.
Oui, mais je veux dire, pardonnez-moi. Non,
Il s'est pas encore démaquillé de l'intérieur.
Non.
C'est la trilogie avec Keanu Reeves.
Oui, alors voilà.
C'est avec Keanu Reeves.
Matrix. John Wick. Break.
Qui a dit Matrix ?
Matrix.
Qui a dit Matrix ?
On l'a dit ensemble.
Eh ben, c'est pas ça.
si vous le permettez, pour ne pas passer pour un con jusqu'au bout, je vais juste rétablir
quelque chose. Ça n'empêchera pas.
Si. Alors, je voulais vous dire, il y a eu une trilogie avec Harrison Ford qui s'appelait À la poursuite du diamant vert, qui s'appelait...
Pas du Michael tout, Douglas. À la poursuite du diamant
vert. Bon, ok, c'est pas...
Bah non.
Merde.
Je pense que t'es pas sur la bonne
ligne. C'était une Indiana Jones, Harrison.
On peut pas parler ici, on n'est pas nombreux pourtant. Hein. Il y a des trilogies qui ne portent pas le même titre.
C'est
point.
C'est vrai.
Ah bah c'est vrai que dans Star Wars, il y a trois
films.
Mais
je parle pas Star Wars, c'est toi qui parles de Star Wars. Comme si cet homme avait pu faire Star Wars, qui a été fait par le plus grand réalisateur du monde, dont tout le monde connaît le nom.
Ne l'engueule pas.
George Lucas.
Mais ne l'engueule pas.
Oui.
Enfin.
Je sais pas ce que j'ai.
Non, il y a un petit ton, t'es énervé.
Oui.
C'est pas parce que t'es arrivé dans les embouteillages que nous, femmes, on doit payer, merde. C'est pas bien.
J'ai l'impression.
Tu crois qu'on paye pas assez cher déjà depuis des siècles?
Mais le nom de cette trilogie va bien à Christophe d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
Ah bah oui.
Ah oui.
Ah oui.
Troduc 1, Troduc 2, Troduc 3.
Non mais ça me donne envie de les tourner.
Cette lucidité,
bon bah alors on donne la réponse à Florian Gazan. Allez-y, humiliez-les.
C'est Very Bad Trip.
Very Bad Trip. Bonne réponse de Florian Gazan.
Avec le beau Bradley Cooper. Ah, il est beau.
Ah, vous l'aimez bien Bradley Cooper.
Il est beau, hein.
Ah ouais. Vous auriez aimé jouer Star is Born avec lui.
Je joue n'importe quoi.
Les deux premiers Very Bad Trip étaient mortels.
Moi, j'aurais bien joué avec les deux. Allez, ouais. Gaga,
qu'est-ce qu'il dit lui?
Il dit que les deux premiers numéros étaient mortels. Non, mais ça suffit maintenant. Enfin, je suis vraiment. Vous avez raison.
Il faut une tête de Turc. Bah, non, mais... c'est toi aujourd'hui.
Oui, c'est voilà. Ça. Non, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Il a raison. Homme objet, il va pas bien.
Mais non, mais écoutez, vous ne saviez pas Very Bad Trip. Ne nous donnez pas maintenant des leçons sur Very Bad Trip. Vous n'avez pas répondu.
Je vous trouve fatigué.
Je vous trouve fatigant.
Voilà, très bien.
Oh, l'autre mairesse qui en loupe pas une.
Tout le monde connaît Roland de Roncevaux, évidemment. Oui. Celui qui souffla ainsi dans son corps.
Le vase de Soissons.
Ah non, rien à voir.
Non. C'est Clovis.
Et c'est ainsi que... qu'il épousa la Belle Aube.
Roland de Roncevaux et son épée, ça vous connaissez.
La Durandal.
Et voilà, son épée Durandal, son cheval veillantif.
Ouais.
Et son corps, un olifant en fait, hein,
oui.
Dans lequel il souffla pour appeler Charlemagne en fait.
Son tonton.
Et son tonton. Il avait été, il faut le dire, Roland, trahi par Ganelon, hein, c'était le nom du traître.
Ganelon, c'est
Oui, son cousin Ganelon qui. Oh le salaud. Qui l'avait entraîné dans un guet-apens, tout ça, évidemment, c'est l'histoire de Roland de Roncevaux, tel qu'on nous l'a raconté, mais Roland...
Il paraît que c'est faux.
Voilà. Mmh. Et en plus, Roland de Roncevaux, ce n'était pas le vrai surnom de Roland. Comment l'appelait-on, Roland ?
Son nom à l'époque, ou le nom qu'on lui prête dans la légende ?
Ah non, son nom à l'époque, il est mort en 718 à Roncevaux, et Roland, on l'appelait Roland le...
Le terrible !
Le vaillant !
Alors, pas le vaillant, pas le terrible, vous voyez ? Vous
le courageux !
Le téméraire !
Le téméraire, non, le courageux non plus !
Le cas des couilles ! Oh.
Roland le vif !
Alors, Roland le vif, non, mais...
C'est un terme guerrier !
Mais effectivement, on est prêt de tout ça, voyez-vous ?
Oui.
Vous brûlez.
Le flamboyant,
non.
Roland le feu. Téméraire. Roland le feu.
Le téméraire, on l'a dit. Le feu, non.
L'ardent,
non.
Ça veut dire courage.
Ah oui, ça veut dire courage.
Le brave.
Le brave, non. Mais c'est l'exact synonyme de brave.
Le preux.
Roland le preux. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est bien le preux. Roland le preux.
Mais il paraît que c'est bidon complètement. Hein.
Toute l'histoire
qu'il a peut-être soufflé dans quelque chose, mais que ça n'a servi à rien.
Dans quoi il aurait soufflé alors?
Je ne sais pas.
Dans le poireau de son cousin pour faire bouger les oreilles.
Non, mais plus personne n'emploie le preux chevalier. C'est dommage.
Bah, même, si, moi c'est... souvent.
Ah bah, en tout cas,
moi, ma concierge me dit, je sors sans... Il pleut. Je sors sans parapluie, elle me dit, vous êtes preux aujourd'hui.
Le preux bénichou.
Le preux bénichou.
Bénichou, le preux, ça sonne mieux.
T'as vu la gueule du preux?
Pourquoi vous me haïssez tant?
L'amour est dans le preux.
Pierre, on ne vous hait pas.
Mais vous me haïssez.
Mais non, on vous adore ici.
Non, il y a beaucoup de jalousie, mais il y a quand même de la haine.
Mais non, on vous chouchoute, on vous cajole, on vous met en condition, on essaie que vous soyez le plus brillant possible aux yeux des dames du premier rang qui sont venues pour vous.
Elle m'aime plus du tout.
Il y a une dame qui est venue avec son manteau de léopard pour vous aujourd'hui.
Oui, elle m'a pas jeté un regard. Quant à l'autre, j'ai dit qu'elle avait un joli nez. Elle est mignonne comme tout avec ses petites lunettes.
Tu crois qu'elle m'a jeté un regard? Pas du tout. Mais je crois que je vais abandonner le premier rang. Au deuxième rang, il n'y a que des mecs, mais ils sont sympas.
Karl Marx, homme du 19e siècle, une biographie fouillée, vivante, avec, il faut le dire, c'est ce que nous raconte la presse, des tas d'informations qu'on méconnaissait sur Karl Marx. Par exemple, il faut savoir, et ça c'est assez étonnant, qu'en 1851, un des meilleurs amis de Karl Marx, Engels lui-même, a rendu un énorme service à Karl Marx. Qu'a fait Friedrich Engels pour son ami Karl Marx?
Il a fait ses courses?
Non.
Il lui a présenté sa femme?
Non, mieux que ça.
Il lui a refilé sa femme?
Non plus.
Il l'a épousée?
Non.
Il a témoigné pour quelque chose?
C'est rapport à sa femme?
Ah, il y a un lien, mais pas direct, mais c'est vrai que c'était en tout cas pour pas que la femme de Karl Marx, Betty, je crois elle s'appelait,
apprenne qu'elle était cocue.
Alors,
il a fait un faux témoignage.
Mieux que ça.
Il a
endossé la responsabilité d'une relation.
Au mieux encore.
Il a fait un enfant.
Il a reconnu l'enfant.
Il a fait un enfant avec la femme
la
de
l'autre. La maîtresse de Karl Marx.
Alors attendez, expliquez, vous êtes tout prêts, allez-y.
Il a reconnu l'enfant que Karl Marx avait fait avec sa maîtresse.
Excellente réponse collective.
Dingue.
Il s'appelait Groucho.
Non, pas du tout. Mais ce qui est vrai, c'est que Karl Marx avait couché avec la fidèle servante de la famille Marx, qui s'appelait Hélène Lenchen. Et pour ne pas faire de peine, évidemment, à sa femme, il a évidemment fait cacher l'enfant. Et c'est Engels qui a reconnu, qui est devenu le père, qui a reconnu la paternité de l'enfant, qui était signé.
Ouais. Il est né avec une grande barbe blanche. Donc on s'est dit quand même.
Bah c'est quand même incroyable, ça faut le faire. Hein. Ça c'est une vraie preuve d'amitié quand même.
Hein. Ouais, mais la femme était au courant puis c'était avec la bonne.
C'est normal qu'il ait couché avec la bonne, c'était du social, c'était un devoir.
Ah oui, pour Karl Marx.
Bah voilà.
Vous avez raison.
Non, mais puis... ce qui est bien, c'est qu'ils aient pas renvoyé la bonne aussi, parce que généralement c'était comme ça que ça se terminait.
Ah oui, quoi. Un Marx, c'est ça repart. Hein.
Marx a même eu du mal à séduire sa femme au départ, sa propre femme, Jenny von Westphalen, c'est le nom de l'épouse de Karl Marx. Il a longtemps dû courir après pour la séduire et la conquérir parce qu'il n'était pas très beau, Karl Marx. C'est ce que nous dit le magazine Ça m'intéresse. Ce n'était pas un premier prix de beauté, selon en tout cas les canons du 19e siècle. Il était petu. Il était petu.
C'est du russe.
Il était petit et têtu, il est petu.
Il était petit, velu,
oh,
et si mat de peau, mais à l'époque, évidemment,
il était peut-être pas mat, mais il avait beaucoup de poils.
Non, enfin, il était si mat de peau qu'on le surnommait le mort.
M-A-U-R-E.
M-A-U-R-E, c'est-à-dire chez, aujourd'hui, on dirait le maghrébin.
Pas le mort, M-O-R-T maintenant. Hein,
mais en plus, son hygiène était douteuse.
Oh, le salaud. Tout pour plaire, celui-là.
Donc, vous êtes en train de nous dire que le gars, il est petit, poilu et qui pue. Il arrive à séduire une femme,
oui,
qui se laisse faire.
Bah attends, elle était peut-être
moche.
Et
il a fait cocu avec la bonne.
Oui.
Attends, la femme, elle était peut-être moche, poilue et elle puait.
Ah, c'est possible, c'est vrai.
Mais
ah,
bah attends, faut voir la tête.
C'était peut-être pas un premier choix. Aussi.
C'était son amie d'enfance. Oh, c'était son amie d'enfance, Madame Marx.
Ah bah voilà.
Vous en saurez plus dans la biographie qui lui est consacrée, Karl Marx, homme du 19e siècle. Non, mais c'est marrant d'apprendre des choses comme ça. Il a été chômeur de longue durée aussi, hein, faut le savoir, Marx. Hein, sans le sou pendant des années.
Bah, s'il puait.
Des années.
Bah, il faisait peur.
Il était toujours fauché, c'était un amoureux fougueux. Il n'arrêtait pas de dire à Jenny « Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb », ce qui veut dire «
Enlève ton slip, enlève ton slip ».
Mais c'est en allemand, enlève ton slip.
Mais non. Ça veut dire je t'aime bien, je t'aime bien, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Quoi?
Bah, je t'aime, on dit. Le fait de rajouter bien, ça enlève l'amour.
Oui, mais ils étaient. Ils normalement.
Ils étaient gamins, à l'époque.
Ah, quand ils étaient mômes.
Mais oui, ils se consumaient d'amour pour elle depuis qu'il avait 18 ans, vous voyez. Il était là, il la couvrait de lettres enflammées, il lui écrivait des poèmes romantiques. D'ailleurs, il y a un livre qui paraîtra, qui s'appellera Le Livre d'amour, signé Karl Marx. Mais Jenny, elle était terrorisée par cet homme.
Évidemment.
Et oui, et il était en plus un peu violent parce que.
Il a toutes les qualités.
Alcoolique et impuissant, bah bonjour.
Non, pas impuissant, obsédé.
Il est enterré à Londres, dans un petit cimetière de Londres.
Vous êtes allé sur la tombe de Karl Marx?
Oui, je suis allé. Et ça sentait très mauvais.
vous demander comment s'appelait ce tableau de Vermeer, la femme au quoi et ce qu'on cherche.
Aux hémorroïdes.
Il n'y a pas eu beaucoup de tableaux de Vermeer, donc c'est assez facile, évidemment. Et si je vous demande de retrouver ce qu'il y a dans ce tableau, la femme haut, c'est tout simplement parce que vous pourrez voir cet objet demain soir au Festival de Saint-Denis. Cet objet sera à l'honneur et il revient à la mode, cet objet. La femme au... Au Potolet. Pensez qu'il y a un festival du Potolet à Saint-Denis.
C'est un outil qu'on a dans des maisons.
Ce n'est pas un outil.
Le hula hoop.
Le hula hoop, la femme au hula hoop.
Bah, ça revient à la mode. Hein.
Est-ce que vous avez déjà vu Vermeer peindre une femme au hula hoop.
Est-ce que un article de beauté.
Un article de beauté, non.
Un récipient, quand même.
Un récipient, non plus.
Une bougie.
Non, une bougie.
Un objet qu'on tient dans la main.
Et c'est un garçon qui s'appelle Thomas Dunford, qui a bientôt 30 ans, et qui depuis 10 ans est devenu en France le porte-drapeau de cet objet chez nous. Et c'est lui qui en jouera... Oh, bah j'ai dit trop de choses. Qui en jouera demain au festival.
Alors c'est la femme à la lutte.
La femme
aux luttes.
La femme aux luttes. Bonne réponse, d'Ariel Dombal. Il s'agit du luth. Le luth est un instrument qui revient à la mode.
Et c'est très dur, c'est une dure luth.
Évidemment. La femme au luth avait été peinte par Vermeer, d'autres peintres d'ailleurs. Hein. Le joueur de luth Caravage. Vous avez le luth qui revient régulièrement. Puis ça a disparu évidemment à une époque.
Ben oui, on se demande pourquoi.
Et là, ça revient.
Non, c'est comme la viole revient.
La
viole revient aussi. C'est ravissant comme son, le luth.
Vous savez combien il y a de cordes au luth ?
4, je crois.
Des cordes pincées. Je ne sais pas combien il y a de cordes au luth. Alors,
Je crois qu'il y en a 4.
Il y en a peu, en tout cas.
Il y en a peu, oui.
Celle qui en a beaucoup, c'est la sitar.
Oui, oui.
Ah, la sitar, oui.
Et le string, c'est le seul instrument avant qui n'a qu'une seule corde.
Bravo, Jean-Marie.
Et Karine, je vous le rappelle, elle joue de la harpe.
Oui.
C'est une harpie.
Ah, c'est ravissant.
Une harpie. Hein.
Tu joues de la harpe. Une harpette.
Ah non, mais je peux vous jurer.
Karine, tu dois la porter une fois ici.
Tu parles à la trembler une harpe sur son dos.
J'en ai fait quand j'étais jeune, j'en fais plus.
Je suis sûr que notre ami Olivier adorerait dans son château un soir qu'on organise.
Non, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de château, il n'y a rien du tout.
Un joli concert.
J'en rends de la musique en plus.
Un joli concert.
Ah, ça doit bien lui aller, vous.
On viendrait tous.
C'est pratique, ça se trimballe partout.
On lui fait la surprise, on lui dit rien. Le week-end, on sait que le week-end, il va dans son château. On y va tous. On organisera une jolie soirée, on sera tous en tenue d'époque.
En ménestrel.
Chez les deux Kersauzon, Ariel interprétera une chanson de Troubadour, accompagnée à la harpe par Karine Le Marchand.
On se mettra à Hain, vous savez, les chapeaux pointus pour les femmes moyenâgeuses.
On se mettra dans le jardin, sous la fenêtre d'Olivier.
Ça va être formidable, Olivier.
Tu recevras un pot de pisse. Comme au Moyen-Âge.
Ah, mais il sait recevoir.
Comme
un ancien
tâche.
C'est dommage, hein, Ariel, on aurait tant aimé.
Moi, j'ai trouvé ça tellement gracieux, j'étais partante.
Ah, voyez, elle était partante.
Eh bien, tant pis.
Non, mais la fin de l'histoire, croyez-moi, on n'ira pas.
Ça m'énerve.
On n'a besoin de rien.
Bernard pourrait vous faire un petit récital.
Un petit striptease.
Ce serait émouvant pour vous.
Non, mais on ne va pas fêter la Saint-Bouzeau, de toute façon.
Et puis, Jean-Marie viendrait vous raconter une bonne histoire.
Il en a toujours
une sous le coude. Hein, Jean-Marie.
Celle-ci, par exemple, les deux amants, ils sont dans le lit, ils viennent de faire l'amour et il dit ton mari rentre à quelle heure? Off, elle dit pas avant une heure. Il dit je te rappelle que ton mari est aussi mon meilleur ami, quand même. D'un coup, le téléphone sonne, la femme elle fait ouais, d'accord, il n'y a pas de problème, ok, elle raccroche, elle dit tu vois, on a même une heure de plus parce qu'il est en train de jouer au tennis avec toi.